France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. Aujourd'hui, en direct jusqu'à 14h du Festival du Livre de Paris, de retour sous l'immense et magnifique nef du Grand Palais. À mes côtés, Natacha Polony, journaliste et éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. En studio ou au Grand Palais, on ne change pas les bonnes habitudes. Ils reviendront dans le duel sur l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur le coup de poker, de folie ou de génie de Trump dans sa guerre commerciale avec la Chine. Et puis, pour le débat, nous recevrons un de nos grands auteurs pour qui l'écriture est une arme pour affronter le réel, pour le raconter, une arme aussi pour vaincre la solitude. Journaliste, ancien grand reporter et écrivain, prix Albert Londres en 1988, prix Médicis en 2005, prix Goncourt des lycéens en 2013, Sorge Chalandon sera avec nous tout à l'heure, mais on commence avec le duel.
Le grand face-à-face XXL, en direct du Festival du Livre de Paris.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour. Bonjour.
On est bien là, non ?
Alors, on est très bien.
On est très bien en public. Il y a beaucoup de monde et une nef magnifique. Le Festival du Livre revient sous la nef. Je crois qu'il l'avait quitté en 1994. C'est une bonne idée d'y revenir. Allez, on commence avec un Donald Trump tout feu, tout flamme. Un Donald Trump banal, en quelque sorte. Un homme qui, dans la même semaine, déclare la guerre commerciale au monde, puis l'arrête, sauf pour la Chine, son ennemi préféré.
J'ai accordé une pause de 90 jours à ceux qui n'ont pas pris de mesures de rétorsion. Parce que je leur ai dit, si vous prenez des mesures de rétorsion, nous doublerons les droits de douane. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine, parce qu'elle a pris des mesures de rétorsion. On verra comment tout ça va évoluer. Je pense que les résultats seront excellents. Je pense que d'ici un an, pas plus, on aboutira à quelque chose pour notre pays que personne n'aurait pu imaginer.
Donald Trump impose donc un face-à-face avec la Chine. La Chine qui, hier, par la voix de son président Xi Jinping, a appelé les Européens, je le cite, « résister ensemble à toute coercition unilatérale ». Natacha, l'Europe est-elle dans une situation particulièrement inconfortable ou peut-elle jouer à son profit de l'affrontement sino-américain ?
Alors, il me semble qu'en effet, l'Europe est dans une situation inconfortable. Mais tout va dépendre de la réponse. Parce que l'opposition, la montée de la confrontation entre la Chine et les États-Unis, ça ne date pas de Donald Trump. On se souvient que sous Biden, par exemple, Biden avait insisté pour qu'apparaisse dans le rapport final de la réunion de l'OTAN de 2021, deux paragraphes sur l'opposition avec la Chine. Emmanuel Macron avait lutté pour que cette partie-là n'apparaisse pas parce qu'il ne voulait pas que l'Europe soit embarquée dans la guerre des États-Unis. Il n'avait pas réussi à imposer cette vue. Et en fait, ça remonte à plus loin, la montée des impérialismes. Le problème là-dedans, c'est que les délires de Trump sont une réponse effarante à un déséquilibre systémique qui date de longtemps. On ne va pas revenir sur les causes de cela, ça remonte à 71.
Et à 71, on explique, c'est le rapprochement
sino-américain. Justement, c'est surtout la sortie unilatérale des accords de Bretton Woods par les Américains et donc le moment de financiarisation de l'économie. Je passe vite, mais le résultat aujourd'hui, c'est un système dans lequel la surconsommation des ménages américains est financé par l'épargne mondiale, en particulier les achats par les Chinois des bons du Trésor américain, et ça renchérit le dollar et donc ça désindustrialise. Le problème, c'est que les Chinois sont en train de sortir tout doucement de cela. Aujourd'hui, leurs avoirs en bons du Trésor sont évalués à 759 milliards de dollars sur les 34 000 milliards de dollars de la dette américaine. En fait, c'est sans doute plus que ça. Mais bon, ils sont en train de sortir tout doucement. Qui est en train d'entrer de plus en plus ?
Les 700 étaient 1400 il y a 10 ans.
Voilà. Et justement, ils sortent. Qui entre ? Les Européens. C'est-à-dire que déjà, nous finançons, nous, Européens, de plus en plus ce modèle de surconsommation américaine. Deuxième point. Depuis l'annonce de l'augmentation des droits de douane, ce qu'on a vu, par exemple, le 12 mars, Donald Trump lance les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Que s'est-il passé depuis ? Immédiatement, une augmentation des importations européennes d'acier chinois. Donc, heureusement, On ne peut pas dire que l'Union européenne ne bouge pas. Ils ont identifié quand même le risque et donc il y a une mobilisation. Le problème, c'est que cette mobilisation se fait dans un sens qui consiste à essayer de militer pour un retour à la situation antérieure. C'est-à-dire que le but de l'Union européenne pour l'instant, le but d'Ursula von der Leyen et en fait le but des Allemands, c'est de revenir à un modèle de libre-échange qui pourtant était dysfonctionnel. Et pour l'instant, on ne voit pas se dessiner un travail qui était pourtant ébauché dans le rapport L'État et le rapport Draghi, à savoir la nécessité pour l'Europe de travailler son marché intérieur pour moins dépendre d'impérialismes qui sont agressifs.
Gilles, est-ce que pendant la guerre froide, entre les deux blocs, il y avait les non-alignés, des pays qui prétendaient tirer profit de l'un et de l'autre sans être alignés sur l'un ou l'autre. Est-ce que l'Europe peut jouer ce rôle-là d'être un non-aligné et de tirer profit parfois des États-Unis, parfois de la Chine ?
Vous disiez tout à l'heure que la guerre avait été déclarée et arrêtée. C'est une pause.
90 jours.
C'est très important. Ce n'est qu'une pause. Et dans ce moment-là, on voit que l'Union européenne veut éviter autant qu'il est possible les dommages immédiats et préparer aussi vite qu'il est possible son indépendance future. Mais cette crise a eu au moins cette vertu d'agir comme un révélateur sur l'intensité de la guerre sino-américaine qui vient de loin, qui ne date pas de Donald Trump, Natacha l'a dit à raison, et dont le cœur vient de ce que la rente technologique sur laquelle la domination américaine s'était faite depuis des décennies est en train de s'épuiser. Et quand la rente technologique s'épuise, ne reste que la force du nombre. Et à ce jeu-là, les Chinois risquent, et c'est ça la grande peur américaine, de devenir la première puissance mondiale. Je crois que c'est comme ça qu'on peut lire non seulement l'explosion des droits de douane envers la Chine qui a été par étapes annoncée cette semaine, mais c'est aussi comme ça, peut-être, qu'il est possible de relier d'autres décisions de Donald Trump depuis son élection. C'est vrai de cette alliance inattendue avec la Russie qui peut avoir comme objectif de briser le lien entre la Russie et la Chine. Et c'est vrai aussi, peut-être, de ce qui se passe sur les voies navigables. Parce que un des grands enjeux pour le commerce international qui se fait beaucoup par voie maritime, ce sont les voies navigables. Or, il y a eu une première bataille sur le canal du Panama, une deuxième bataille qui se fait sous un angle différent avec le canal de Suez, le seul domaine dans lequel l'armée américaine intervient contre les Houthis et qui rend le canal de Suez beaucoup plus difficilement à traverser. Et ce peut, donc il ne reste plus dans cette situation-là, quand on est chinois, que de passer par le cap de Bonne-Espérance. C'est loin et c'est cher.
Et j'ajouterais que sur la guerre des minerais, des métaux rares, la question du Groenland peut se comprendre aussi comme cela. Depuis des mois et des mois, les Chinois limitent les exportations de terres rares vers les États-Unis. Une question pour terminer ce premier duel sur la guerre commerciale. Est-ce que dans cette guerre commerciale, est-ce qu'on est vraiment un match d'égal à égal ? Je veux politiser un petit peu. Est-ce que quand vous avez une démocratie avec des élections à venir et que vous avez en face un pays qui n'a pas d'élection, la Chine, le pays qui n'a pas d'élection a plus de temps ? Parce que celui qui a des élections, les États-Unis, ont des midterms, ce qui peut être catastrophique pour le pouvoir en place s'il y a inflation, bref, s'il y a un impact de la guerre commerciale qu'a lancé pourtant Donald Trump lui-même. Est-ce que dans ce contexte-là, les démocraties sont plus fragiles que les régimes autoritaires, Natacha ?
Alors, on peut prendre le problème comme ça, et c'est visiblement la façon dont la Chine a tendance à le prendre. Les déclarations de Xi Jinping et du Premier ministre chinois Li Qiang marquent cela de façon très claire. Cette fameuse phrase que j'aime beaucoup, l'économie chinoise est un océan, elle n'est pas un étang.
Magnifique.
C'est très chinois comme vision des choses. Mais en revanche, le paradoxe de cette situation, c'est qu'il est impossible de savoir en fait qui va remporter ce bras de fer, parce que l'économie chinoise a des fragilités extrêmement importantes. D'abord, elle est déjà en crise, avec une crise du logement absolument énorme. et avec une crise démographique qui est en train petit à petit de peser sur les possibilités de développement de la Chine. D'où le fait d'ailleurs qu'elle va absolument tenter de trouver un autre marché d'exportation. Et c'est tout le problème. C'est quand on voit que l'Union européenne est encore totalement focalisée sur cette vision-là, quand on voit que le commissaire au commerce européen, Maroš Šefčovič, qui est un Slovaque, est en place à différents postes, notamment comme vice-président de la Commission depuis 2009, alors que le bilan n'est quand même pas tout à fait reluisant, puisque on s'est quand même aperçu que pendant des années, l'Union européenne n'avait absolument pas pensé ce retour des empires et cette possibilité de se protéger en dehors du rêve des flux et du doux commerce. Quand on voit cela, on se dit qu'il y aurait peut-être éventuellement quelque chose d'un petit peu plus urgent à faire.
Notamment donner la parole à Gilles.
Une phrase pour répondre à votre question. La Chine et les États-Unis ne sont pas dans le même rapport au temps, et c'est pas seulement lié au système démocratique, mais ils sont dans un commun rapport de dépendance mutuelle. Et c'est ce en quoi cette guerre commerciale est dangereuse pour les uns et pour les autres. Le paradoxe, c'est que en s'attaquant non seulement à la Chine, mais aussi à ses alliés européens, Donald Trump affaiblit son propre pays. Et puisque Natacha citait, je crois que c'était le président Xi, Sun Tzu, dans L'Art de la Guerre, dit « N'interrompez jamais votre ennemi quand il est en train de faire une erreur ».
Et puis comme on est dans le bal des citations, pour raconter le rapport entre États-Unis et Chine, je cite l'économiste André Grébin qui disait « Il y a entre ces deux pays un équilibre des déséquilibres. Reste à savoir si quelqu'un va un jour tomber ».
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Deuxième thème après l'annonce de la suspension, on en parlait il y a un instant, des nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump aux partenaires commerciaux des États-Unis. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, était l'invité de France Inter ce jeudi et il a évoqué la très délicate question du budget de la France.
Nous avons un modèle social formidable en France. Moi, j'y suis attaché comme la grande majorité de nos concitoyens. Notre problème, c'est que ce modèle social nous coûte beaucoup plus cher que nos voisins européens. 260 milliards d'euros de plus. Alors, je ne suis pas en train de dire ce matin que nous pouvons faire 260 milliards d'économies comme ça, d'un claquement de doigts. Mais quand même, qu'on aille regarder chez nos voisins ce qui marche le mieux. Et puis, dans la mobilisation générale, il y a un aspect pour pousser, augmenter la croissance. Il faut qu'on travaille plus, notamment sur les jeunes et les seniors, puis qu'on travaille mieux en gagnant de la productivité.
François Bayrou préside une conférence du gouvernement sur les finances publiques pour préparer le budget. C'est mardi prochain, le budget 2026. Gilles, est-ce qu'on peut dire que les choses difficiles commencent pour le Premier ministre quand on entend le gouverneur de la Banque de France dire qu'il y a des choix, disons, douloureux socialement, qui sont devant nous ?
Je pense que le Premier ministre avait le sentiment que les choses difficiles ont déjà commencé et que ce premier budget avait déjà été difficile à faire. En fait, il y a deux difficultés. Il y a la difficulté immédiate qui est celle de l'exécution du budget de cette année. Et on peut avoir une impression de déjà-vu puisque en 2024, en 2023, on a eu un dérapage des finances publiques au sens où le dérapage a été supérieur à celui qui avait été voté et on peut craindre qu'il se passe la même chose cette année. Cette impression sur les conséquences est juste, mais elle est erronée parce qu'il y a une grande différence sur les causes. En 2023 et en 2024, il y a eu un dérapage parce qu'il y a eu de mauvaises prévisions sur les recettes. Là, on est dans une situation dans laquelle, si dérapage il y a, c'est parce que la croissance s'affaisse, et elle s'affaisse principalement pour des raisons liées au sujet que nous évoquions précédemment. Et ce faisant, elle pose une intéressante question de politique économique derrière laquelle il va y avoir, commence à s'esquisser, une divergence politique à l'intérieur de la majorité. Si on essaye de résumer la question qui est posée, c'est que faut-il privilégier ? Est-ce que c'est l'objectif de dépense qui a été fixé ou est-ce que c'est l'objectif de déficit ? Si on fixe un objectif on se tient à l'objectif de dépense, on a d'abord un raisonnement économique et on laisse jouer les stabilisateurs économiques automatiques. C'est ce qu'a dit Éric Lombard. D'une certaine manière, et il peut le dire de manière plus nuancée parce qu'il est gouverneur de la Banque de France, mais ce que disait aussi François Villeroy de Gallo dans sa lettre au président de la République cette semaine, dans laquelle il dit « il faut tenir au maximum, l'objectif de déficit à 5,4 pour l'année qui vient ». Si, à l'inverse, on dit « il faut coûte que coûte tenir le déficit, ça veut dire qu'il faut réduire davantage les dépenses. C'est ce que va proposer la droite, c'est ce qu'a déjà dit Gérard Larcher, au risque de comprimer la croissance. Ça, c'est les difficultés immédiates. Et puis, je le dis juste d'un mot pour laisser la parole à Natacha, il y a les difficultés de l'année prochaine. Et oui, elles sont plus importantes encore parce que l'effort de réduction des déficits va être plus important et parce que le levier des recettes qu'on a déjà utilisé cette année sera plus difficile à activer. Donc, on a eu un premier Himalaya, et ben, il y a, on va le faire par la face nord pour l'année qui vient.
Un deuxième 8000 mètres en prévision, Natacha.
Oui, on peut ajouter que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dérapage donc des comptes publics est intéressant en ce qu'il montre avant tout que ce dérapage, qui est un dérapage, comme le disait Gilles, sur la question de la prévision des rentrées, est en grande partie lié à la conjoncture politique. C'est-à-dire qu'il y a eu carence à certains moments, notamment entre la démission d'Elisabeth Borne et l'arrivée du gouvernement Attal, ensuite après la dissolution, et que tout cela a rendu beaucoup plus difficile le suivi par les services de l'État et la capacité à agir sur une situation économique que l'on voyait. Alors, on pourrait en tirer la conclusion qu'il faut éviter l'instabilité politique. Il y a différents facteurs qui ne sont pas tout à fait maîtrisables. Ce sont les agendas des uns et des autres. Et donc, le risque d'instabilité dans la mesure où, justement, cette instabilité est liée au fait qu'on a des forces politiques qui ont terriblement de mal à s'inscrire dans une vision de long terme. Et si on regarde, si on lit la lettre de François Villeroy de Galhau, elle est intéressante en ce qu'elle pointe à la fois l'importance de la réduction des dépenses, mais surtout la question qui est toujours si peu abordée par les diverses forces politiques, celle de la création des richesses. En fait, le problème, c'est que nous sommes arrivés à une telle tension sur les dépenses publiques et sur le déficit chronique de la France, que nous en sommes chaque année à grappiller, et nous le commentons depuis des années avec Gilles dans cette émission, chaque budget, on grappille un petit peu par-ci, un petit peu par-là, sans jamais de vision de long terme sur la question de la création de richesses et donc de la capacité, tout simplement, à investir, à faire en sorte que les entreprises relocalisent, c'est-à-dire une véritable politique industrielle.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Troisième thème du duel. Cette semaine, le Centre de recherche de politique de Sciences Po, le CEVIPOF, en partenariat avec l'Association des maires de France, a présenté une étude sur les intentions de réengagement des maires sortants. On écoute Michel Fournier, qui préside l'Association des maires ruraux de France.
J'ai pas plus de mal de trouver des femmes que de trouver des hommes. Ça, c'est du conservatisme. C'est des gens qui sont encore dans le « je suis l'homme, donc j'ai raison », point. Quand vous entendez un maire qui m'a interpellé en me disant « ouais, mais tu te rends compte, si on met des femmes, qui c'est qui va nous faire à manger le soir ?» Non, mais vous voyez le résultat du vote hier, vous avez compris où est le conservatisme. Donc, il y a des habitudes anciennes qui font que on en est là encore, quoi. Donc, à un moment donné, je veux dire stop. Faut pas exagérer quand même.
Gilles, la question de la parité est pas centrale dans le débat actuel, mais elle est présente. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette enquête du CEVIPOF ?
C'est-à-dire qu'il y a eu cette semaine à la fois cette enquête du CEVIPOF auprès de l'ensemble des maires de France et une proposition de loi qui a modifié, notamment à la fois à Paris, Lyon et Marseille et dans les communes de moins de 1000 habitants, le mode de scrutin. On le sait, la France est une anomalie institutionnelle. Nous avons 35 000 communes, c'est autant que dans le reste de l'Union européenne. Et dans ces 35 000 communes, 70% d'entre elles ont moins de 1000 habitants. Souvent, on souligne les difficultés que ça crée, mais ça débouche aussi sur un miracle démocratique. 560 000 élus locaux, oui. 1 million de candidats aux élections municipales, c'est sans équivalent en Europe et sans doute sans équivalent dans le monde. C'est une sorte d'exosquelette invisible de la France. Et la question que pose cette enquête et que pose la proposition de loi, c'est est-ce que c'est la fin de ce miracle français ? Il y a deux pièces qui sont à l'appui de cette interrogation. S'agissant du passé, pour élaborer cette proposition de loi, quand on lit le rapport sénatorial, on voit que vous avez déjà des communes, une centaine de communes dans lesquelles il n'y a eu aucun candidat. Vous avez près de 400 communes dans lesquelles le conseil municipal est incomplet. Vous avez eu ces dernières années, par rapport à l'élection de 2020, 1500 maires, 30 000 conseillers municipaux qui ont démissionné. Et puis, quand on regarde l'avenir, et c'est ça l'enquête du CVPOF, on voit que vous avez à peine 40% des maires sortants qui disent qu'ils vont se représenter. C'était à peu près le même chiffre il y a 5 ans. Et donc, il y a cette interrogation, mais je termine par là. Je crois qu'on a des raisons d'être un peu optimiste. Deux raisons. La première, c'est que la proposition de loi qui a été adoptée cette semaine apporte au moins deux améliorations dans les petites communes, les communes de moins de 100 habitants, de moins de 1000 habitants. Notamment, elle réduit la pression sur le nombre de candidats, puisque on peut avoir des conseils municipaux avec moins de conseillers municipaux. Hein, on passe de 7 à 5 minimales dans les communes de moins de 100 habitants et de 11 à 7 dans celles de 100 à 500 habitants. On réduit la pression personnelle sur les candidats parce que la spécificité dans les petites communes, c'est qu'on pouvait barrer les noms des candidats qu'on n'aimait pas. C'est ce qu'on appelle le tir au pigeon. C'est maintenant...
Officiellement le panachage et en fait le tir au pigeon.
Officiellement le panachage et officieusement le tir au pigeon. Et puis la deuxième raison pour laquelle on peut être un peu optimiste, c'est que dans cette enquête du CVPOF, on voit quand même la grande satisfaction aussi qu'il y a pour les maires à exercer leur mandat, la reconnaissance, le sentiment d'être utile. Donc un peu d'espoir.
Un peu d'espoir, mais Natacha, le tir au pigeon a peut-être disparu officiellement, mais il reste très présent, notamment par la pression mise par les citoyens sur leurs élus. C'est une autre forme de tir au pigeon.
En effet, et ce qui est intéressant dans cette enquête du CVPOF, c'est qu'elle dit bien qu'il n'y a pas de crise des vocations. Et là, je rejoins ce que disait Gilles sur l'exception française. Quand j'entends des politiques très souvent dire « mais tout cela n'est pas moderne, il faudrait en finir avec ces 35 000 communes », c'est oublier que nous avons donc en France une administration qui est faite de façon quasi bénévole par des centaines de milliers de citoyens et qu'il ce serait une folie absolue que de remplacer ça par un peu plus d'administration, de fonctions publiques. Je pense que l'implication est absolument nécessaire. Donc pas de crise des vocations, mais lassitude et sentiment d'abandon. Et les causes qui sont citées en premier, c'est d'abord, le manque de ressources financières et ensuite l'exigence trop forte des citoyens. Alors, on en a beaucoup parlé de l'exigence trop forte des citoyens, c'est vrai, de la pression, de la mentalité consumériste d'un nombre croissant de Français, mais la question du manque de ressources financières me semble absolument essentielle. Parce qu'en fait, la suppression de la taxe d'habitation a priver encore un petit peu plus les maires d'un levier, d'une marge de manœuvre. Or, je crois que la démocratie locale, ça s'exerce. Et ça s'exerce quand on a les possibilités d'administrer réellement, c'est-à-dire de gérer un budget autrement qu'en demandant les dotations de l'État.
J'ai vu Gilles, oui, pas oui. Mal dodeliné quand même.
Oui, j'ai dodeliné. Non, c'est simplement...
Gilles dodeline souvent.
J'ai pas exactement la même lecture de l'enquête parce que je trouve que quand on essaye de hiérarchiser les causes qui expliquent le malaise des maires, il y a un peu les difficultés des relations avec l'État, le manque de moyens financiers ou la complexité des normes. Il y a un peu, et on ne le dit jamais, les difficultés du condition d'exercice du mandat. On voit à quel point les maires consacrent beaucoup de temps, gagnent très peu d'argent, prennent beaucoup moins de vacances. Mais l'élément quand même le plus massif, c'est les difficultés des relations avec les citoyens. 73% qui disent le niveau d'exigence des citoyens est trop élevé. 60% des maires qui disent qu'ils ont été victimes d'incivilité. 33% d'insultes ou de menaces et 20% de harcèlement. Je disais, il y a une sorte de miracle démocratique. Il dépend de nous, citoyens, que ce miracle perdure par les relations que nous créons aussi avec nos élus.
Et qui ne se transforme pas en cauchemar.
En un mot très rapide, je pense que la mise en place d'un véritable statut de l'élu est une façon de répondre à cela, mais aussi de répondre à la féminisation, parce qu'il y a moins de femmes, tout simplement, parce qu'il est compliqué encore plus pour elle de concilier l'engagement avec une vie professionnelle et une vie personnelle. Et deuxième point, je pense quand même que la pratique de la démocratie locale par une véritable autonomie financière permet un rapport plus sain entre les citoyens et les maires.
Allez, il est temps de passer à notre, non pas débat, mais rencontre avec notre invité Sorge Chalandon.
France Inter, le grand face-à-face XXL, le débat.
Bonjour Sorge Chalandon.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans ce lieu sublime, n'est-ce pas ?
Magnifique.
Cette nef du Grand Palais, écrin parfait du Festival du Livre de Paris.
Vous êtes lumineuse.
Lumineuse et je crois un peu chaude pour les exposants aussi.
Alors je ne sais pas encore.
Si, je crois. D'accord. Vous êtes journaliste, ancien grand reporter et écrivain surtout. Prix Albert Londres en 1988, prix Médicis en 2005, prix Goncourt des lycéens en 2013. Votre dernier roman, L'Enragé, est paru comme les autres chez Grasset en 2023. Le dernier en date d'une œuvre ample qui mêle enquête, autobiographie, témoignage sur laquelle on va s'arrêter et au détour de laquelle vous allez nous dire l'importance que revêt pour vous l'écriture. Et pour cela, j'aimerais commencer avec une très belle archive qui date de 1964, avec un autre grand écrivain et journaliste lui aussi, voire reconnaissable entre toutes, notamment en raison de ses années passées au masque et la plume sur France Inter, j'ai nommé Jean-Louis Borry.
Un livre, c'est la recherche d'une amitié. Une amitié qui est presque forcément enrichissante. C'est par conséquent un outil, une arme puissante contre la solitude, qui est peut-être la pire chose qui puisse arriver à l'homme dans le monde moderne.
Sorge Chalandon, j'ai choisi cette archive parce que je pense qu'elle vous parle.
Oui.
Une arme contre la solitude.
Oui.
Est-ce que c'est aussi ça pour vous l'écriture ?
Alors moi d'abord, je suis venu à l'écriture parce que j'avais un problème. J'ai toujours un problème quand je suis énervé ou je suis bègue. Donc le bégaiement, c'est quelque chose qui est terrifiant parce qu'il empêche de s'exprimer, il empêche de parler, il empêche de dire aux autres, il empêche de communiquer. Donc j'ai cru que que l'oralité me serait interdite et que seule l'écriture me serait possible pour communiquer. Donc d'abord, il y avait cette chose-là, donc l'enfant bègue, extrêmement difficile à vivre. Et l'autre chose, c'était que mon père refusait les livres chez lui, à la maison. Aujourd'hui, ça serait le chef mondial des complotistes de l'univers. C'est-à-dire que nous n'avions que deux livres. On avait deux livres officiellement qui étaient sous la télévision. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. C'est les deux seuls livres qu'il y avait. Tous les autres étaient interdits à la maison parce qu'ils trouvaient que les livres ne devaient pas entrer à la maison. Donc lire et écrire, pour moi, ça a été ces choses que l'on dit de façon un peu banale. Lire, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je m'échappais grâce à la lecture, je m'échappais grâce à la bibliothèque verte, je m'échappais grâce au Club des Cinq, c'est-à-dire que je m'échappais grâce à plein de choses qui m'étaient interdites. Lorsque l'écriture vous est interdite et lorsque la lecture vous est interdite, tout d'un coup, ça prend une proportion qui est immense parce que vous avez l'impression, lorsque vous lisez un livre, que vous êtes en train de rentrer dans un interdit, de lutter contre un interdit, et donc ça m'a porté. C'est-à-dire que comme lire était interdit, j'ai trouvé que lire était révolutionnaire. Et donc lire était un moyen pour moi de vivre, simplement.
Lire était révolutionnaire et écrire était salutaire, parce qu'on dit toujours qu'un bègue, c'est un gamin ou un adulte qui n'a pas assez de mots. En fait, il a trop de mots. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez tellement de mots qu'il fallait pour vous les mettre par écrit ?
Alors, j'avais tellement de mots qui restaient coincés dans la gorge. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez un bègue, c'est la fabrication des mots. Comment on fait ? D'où ils viennent ? J'ai un exemple qui me revient tout le temps, parce que c'est un exemple d'enfance. Le R du mot rouge n'arrivait pas. Une pomme rouge, le R n'arrivait pas, ne passait pas. Donc il faut avoir des mots en réserve, il faut avoir grenat, il faut avoir carmin, il faut avoir pourpre, il faut avoir vermillon, il faut avoir toutes ces choses-là au cas où le rouge de base, le rouge initial ne passe pas, il faut d'autres mots. Et donc, pour moi, écrire, c'était aussi un moyen de dire à mon père, lire et écrire, de dire à mon père, je suis en train de vous quitter, je suis en train de m'en aller, je suis en train de prendre mon indépendance. Mais c'est étonnant d'expliquer à un enfant aujourd'hui que lire, c'est la liberté. Alors, c'est un mot un peu bête comme ça, mais pour moi, c'était exactement ça. Lire et écrire était la liberté.
Et ce qui est fascinant, c'est que votre premier roman, Le Petit Bonzi, bien sûr, c'est un personnage, Le Petit Bonzi, mais c'est oui. En fait le livre, parce que c'est le frère de Jacques, le garçon qui est bègue et qui en souffre et qui va l'aider. C'est quand même incroyable que votre premier livre, c'est un livre sur le livre.
Mais c'est-à-dire que je ne pensais pas écrire, en fait. Je voulais écrire Le Petit Bonzi pour dire aux amis, aux gens qui ne me connaissaient pas, voilà, je suis bègue, c'est comme ça, c'est dit maintenant, c'est un outing presque, je suis bègue, c'est comme ça. Mais je ne pensais pas écrire d'autres livres. Et j'ai aimé la façon d'écrire dans le roman, c'est-à-dire que je suis journaliste, Donc il n'y a pas le problème de l'actualité, il n'y a pas le problème même de la véracité, il n'y a pas tous ces faits qui nous contraignent. Et tout d'un coup, j'avais devant moi une plage qui était une plage immense. Un journaliste ne peut pas, théoriquement, parce qu'il y a des journalistes qui mentent, on le sait, mais un journaliste ne peut pas construire une ville, détruire une ville. Un auteur peut construire une ville, peut détruire une ville. Au-delà de ça, il peut demander à quelqu'un qui est mort, lève-toi s'il te plaît. Et ça, tout d'un coup, je me suis rendu compte de ça et j'ai persisté, tant mieux, pour moi en tout cas.
Marceline Leridan Sivens, qui a été déportée avec Simone Veil, raconte assez tardivement dans ses mémoires, parce qu'on lui disait, mais vous êtes tellement jeune, vous avez l'air tellement jeune, elle fumait des cigarettes, elle disait des gros mots, et elle disait, vous savez, on a toute sa vie l'âge de ses traumatismes. Comment est-ce que vous l'entendez, ça ?
Ben, on a toute la... Oui, c'est-à-dire que moi, je continue, j'ai 72 ans maintenant, et ce qui est assez terrifiant, c'est que je m'amuse de temps en temps à me souvenir comment était mon père à 72 ans, quel âge j'avais moi-même, et je le vois dans le miroir de la salle de bain. Et donc le traumatisme, il est là. Et c'est terrible, parce que l'idée, c'est de ne pas être en construction seulement contre son père, ce qui sera un drame absolu. C'est pas être... Bon, lui était d'extrême droite, donc je vais pas être d'extrême gauche parce qu'il était d'extrême droite, mais j'espère que je ne suis pas que le renoncement de ce qu'il était et que la réponse à ce qu'il était. Je ne suis pas une réplique, mais il a fallu pour tout ça que je me construise seul, que je m'en aille, que je me sauve, que je me cache, que à 16 ans et demi, d'ailleurs ça sera le prochain, je vous le dis comme ça, voilà.
Ah, merci.
C'est fait. c'est cette période qui manquait. Parce qu'après, je vous rassure, je referme le livre du Sorge. Ça y est, on va passer à autre chose, j'espère. Mais en tout cas, ce moment entre le moment où on quitte la famille, où on se retrouve dans la rue, j'ai vécu dans la rue pendant un an, et comment on fait, qui on rencontre, qu'est-ce qui va vous aider à vivre ou à survivre. Ça dépend sur qui on tombe. Ça dépend si on tourne à droite ou à gauche dans la rue lorsqu'on a quitté le père et la mère. On va où ? Comment on fait ? À quoi est-ce qu'on s'attache ? Qui est-ce qu'on écoute pour vivre et pour survivre et pour grandir, surtout ?
Et se faire prénommer Sorge, qui n'est pas votre prénom de naissance, est-ce que c'est une manière de récupérer aussi votre existence ?
Bien sûr, je récupère mon existence. Et d'abord, je vous rappelle qu'à l'époque, seuls les prénoms du calendrier étaient autorisés. Par exemple, même un Patrick ne pouvait pas s'appeler Patrick parce que c'était Patrice sur le calendrier. Donc, il a fallu attendre que l'on ait le droit de s'appeler Mégane pour Mademoiselle Renaud, Mégane Renaud, par exemple. Non, je crois que ça, non, ça d'ailleurs,
je crois que ça a été interdit.
Ça a été refusé. Oui. Je crois que ça a été refusé. Mais voilà, c'est-à-dire se réapproprier un autre prénom que le sien, qui était mon prénom d'amitié, de camaraderie, etc. Oui. C'est une manière aussi de lire, d'écrire et de refermer la porte du domicile.
Saint-Gilles.
Saint-Gilles.
Bah, y a un Gilles, là il y a un Saint, lui il a pu garder Saint-Gilles. Son prénom.
C'est joli. Alors,
peut-être y a-t-il encore des auditeurs chanceux qui n'ont pas lu Sorge Chalandon. Je dis chanceux parce qu'ils ne l'ont pas encore lu et qu'ils ont donc...
J'ai peur.
toute la possibilité de découvrir et d'arpenter ce territoire extraordinaire qui est l'œuvre de Sorge Chalandon. Il y a peu d'auteurs contemporains dont j'ai lu tous les romans, ou à peu près tous les romans. Il y a peu d'auteurs contemporains dont je guette la date de sortie du prochain, et il y a peu d'auteurs contemporains dont la lecture d'une page, parfois d'un paragraphe, et parfois même d'une phrase, permet de dire c'est lui. Donc il faut lire Sorge Chalandon. On ressort, je crois, on gagne en humanité et en fraternité. Bouchez-vous les oreilles, cher Sorge, mais ça y est, c'est dit. La question que je voudrais vous poser porte vraiment sur, pour le coup, sur l'écriture, parce que quand on vous lit, on a l'impression que c'est presque comme un scénario, vos livres. Et je voudrais savoir comment ça se passe, l'écriture d'un livre, parce que il y a un travail de documentation. Enfin, on voit la documentation, parce que vous parlez, quand vous parlez de la catastrophe de Liévin, quand vous parlez dans votre dernier essai de ce pénitencier pour enfants
1934,
à Belle-Île, quand vous parlez de l'Irlande, quand vous parlez du Liban. Donc, il y a un travail de documentation, il y a un travail d'imagination, et puis il y a presque un travail de scénarisation avec souvent un twist final. Comment ça se passe, à la fois le choix d'un sujet et la conception et l'écriture d'un roman chez Sorge Chalandon?
Dans la tête de Sorge Chalandon.
Ouais. malheureusement, La plupart de mes romans viennent de quelque chose qui m'est intime. J'ai écrit un roman sur le cancer qui s'appelle Une joie féroce, parce que ma femme et moi avions un cancer. Autrement, parce que le premier problème qui se pose pour moi, c'est le problème de légitimité. De quel droit je vais parler de ça? Quand on me dit, mais pourquoi écrivez-vous sur votre père un bourreau? C'est parce que mon père était un bourreau. Pourquoi écrivez-vous sur le cancer? C'est à la mode? Non, j'ai un cancer. Ah, pardon. C'est-à-dire que j'en suis encore au stade, c'est un problème d'ailleurs, j'en suis encore au stade où je ne m'imagine pas écrire sur quelque chose que je ne connais pas, sur une douleur que je n'ai pas vécue. Mais partant de là, j'écris autre chose. Mais si j'écris sur des enfants en 1934, je me souviens, dans une salle, quelqu'un m'a dit « Mais ça vous fait quel âge ?» J'ai trouvé ça tellement joli que si j'écris sur cette colonie pénitentiaire, c'est parce que mon père, pendant toute mon enfance, a menacé de m'y mettre. Donc, il y a un moment donné, mon père me menace de m'y mettre. J'espère qu'il ment, j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que cette colonie pénitentiaire de Belle-Île n'existe pas. Or, elle existe. Et après, quand je me mets à écrire, j'ai envie de dire, tu vois, papa, tu voulais m'y mettre. Eh ben, je vais y aller. Je vais y aller, mais je vais souffrir avec les copains. On va tout casser avec les copains et je vais m'enfuir avec les copains. Donc là, depuis toujours, je sais qu'il faut que j'aille à la colonie pénitentiaire, que je trouve une histoire à raconter qui va se passer en 34, que je vais rejoindre les gamins de la colonie. Mais c'est encore une fois, pour dire à mon père, même mort, tu vois, tu voulais que j'y aille, j'y suis allé, mais ça ne s'est pas passé comme tu le veux. J'aimerais un jour écrire sur quelque chose. Enfin, alors évidemment, je ne me compare en rien, mais j'aimerais écrire les Trois Mousquetaires sans qu'on me demande, mais vous n'êtes pas mousquetaire. Parce que c'est la première.
Et votre père non plus.
Et mon père non plus. Mais je suis désolé, mais c'est la première question que les gens posent en ce moment devant un auteur, c'est est-ce que c'est autobiographique? C'est devenu la première question posée. Est-ce que c'est autobiographique? Et quand on dit un petit peu, ah donc c'est intéressant. Et quand on dit, moi j'ai entendu quelqu'un, je me moque pas des lecteurs, jamais. Mais c'est un papa avec son enfant qui avait, j'ai une fille de 15 ans, donc c'est pas grave. Les boutons, etc. Je sais ce que c'est. Et il me demande si c'est autobiographique. Donc, alors je dis, bah, un petit peu, d'accord, donc c'est intéressant. Et à côté de moi, il y avait une petite dame qui avait fait un roman. Et il lui dit pareil, c'est autobiographique. Elle dit, non, c'est un roman. Et il dit, c'est inventé. Et son fils dit, on dit un fake de nos jours, papa. Donc le roman, brusquement, c'est devenu un fake. Et donc j'ai très peur, c'est marrant, j'ai envie de pouvoir continuer encore un petit peu à dire, j'ai la légitimité à parler de cela, puisque j'ai vécu cela. Mais un jour, peut-être que je vais me balancer dans quelque chose, je vais être mousquetaire du roi, et quand on me dira, mais t'es pas mousquetaire, j'aurai l'impression d'être démasqué. Non, je ne suis pas mousquetaire du roi. Et donc, c'est un fake. Et donc, comment je vais faire, moi, après?
Natacha Polony.
Mais justement, ce que je trouve extraordinaire dans votre écriture, c'est qu'elle est en permanence, en effet, liée à ce que vous êtes, à ce que vous avez vécu, mais elle en sort. Se nourrit d'abord de tout ce que vous avez vu et qui ne concerne pas simplement votre histoire intime, mais aussi ce que vous avez vu en tant que journaliste. Oui. Mais surtout, c'est en permanence un travail qui va vers les autres. Et d'ailleurs, j'avais lu une fois que vous disiez écrire, c'est mon endroit pour pleurer. Et c'est en vrai, quand je vous lis, je pense à cette forme, qui est une forme habituellement poétique, qu'on appelle le tombeau.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai l'impression, et je me posais cette question,
oui,
est-ce que pour vous, écrire, c'est justement toujours un tombeau, c'est-à-dire érigé à la mémoire de ceux qui, eux, n'ont pas de voix?
Oui.
Sans Chalandon.
Oui, c'est-à-dire que je suis journaliste. Un journaliste n'a pas le droit de pleurer. Je suis journaliste, c'est-à-dire je suis reporter. Moi, je ne pense pas. Moi, je suis fasciné par vos duels. Parce que vous me mettez au milieu du duel, mais je reste quoi? Je reste bouche ouverte. Je ne sais pas, en fait. Et ça, c'est une chose. Je suis hanté par le doute tout le temps, toujours. Et donc, moi, le problème que j'ai, c'est de sortir de quelque chose que j'ai vécu, que je sais, que j'ai entendu, etc., pour en faire effectivement autre chose. Mais le tombeau, j'aime bien. Tombeau d'un traître, tombeau d'une maladie, tombeau d'un père. Et en même temps, moi, ce qui me bouleverse vraiment beaucoup, c'est que personne ne vient me dire, ah mon pauvre, ce que tu as vécu. Personne. Ils ne viennent pas me parler de mon père, mais du leur. Donc quand on me dit, est-ce que vous écrivez pour guérir? Mais jamais. Il y a des médecins pour ça, il y a des docteurs de la tête, il y a tout ça. Moi, j'écris pour partager quelque chose. Et ce qui me touche, c'est que je parle de mon père, des gens viennent et me parlent de leur père. Et donc j'ai l'impression que chaque roman est un sac de pierres, en fait. C'est un cadeau empoisonné. Et chaque personne repart avec une petite pierre, plus ou moins lourde, plus ou moins grosse. Ce qui ne fait pourtant que le sac n'est pas plus léger.
Un sac de pierres, un sac de paires aussi.
Alors, un sac de paires, un sac de pierres.
On pourrait continuer longtemps, mais juste dans votre œuvre, il y a cette dimension autobiographique. Et puis, il y a des romans sur l'Irlande, des romans sur le Liban, où là, c'est votre travail de journaliste qui vient percuter le travail du romancier. Qu'est-ce que la fiction permet de plus que le journaliste pour affronter le réel? Ce qui peut paraître paradoxal, que la fiction permet d'approcher le réel.
Oui, mais c'est ce que Natacha Polony disait, c'est-à-dire que je me réapproprie le jeu, je me réapproprie mes larmes, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans des massacres en temps de guerre, au Liban, en Afghanistan, en Somalie, je ne peux pas pleurer, moi. Le journaliste ne peut pas. C'est-à-dire qu'il fait un article où il décrit, où il explique, il n'explique pas, où il le décrit, il donne aux autres le matériel pour réfléchir, pour expliquer. Mais moi, je suis là, sur place, je ne peux pas pleurer. En revanche, après, je peux rentrer chez moi, je pue la mort, et cette odeur de mort, j'en fais quoi? Un roman. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'il y a un moment donné, c'est pas que dans le roman je peux dire plus que ce que je dis dans un journal, mais dans un roman j'ai le droit de dire alors je m'appelle Antoine, je m'appelle Julien, je m'appelle Paul, je m'appelle ce que je veux, mais c'est moi qui retourne à Sabra et Chatila en tant que metteur en scène de théâtre, ce que je ne suis pas. C'est moi qui retourne en Irlande auprès d'un copain qui a trahi en tant que petit luthier. C'est-à-dire que le journaliste ne m'a pas permis de trouver des sujets, mais il m'a permis d'aller dans des endroits où jamais je n'aurais pu mettre les pieds si je n'avais pas été un journaliste. Et dans ces endroits-là, j'ai été terrorisé, j'ai été subjugué, j'ai haï, j'ai aimé. Et le roman est une façon... C'est ça, de parler. Moi, le petit journaliste redevient un homme qui parle de lui.
Est-ce que le roman est alors une forme de consolation pour vous?
Non, de partage. Encore une fois, je ne me console pas, mais j'ai le pouvoir de mettre des mots sur des situations inhumaines, terrifiantes. Et ces mots-là font que... c'est pas que je les mets à distance, mais mettant des mots dessus, tout d'un coup, quelque chose m'apparaît comme étant un peu hors de moi. Et offert à tous. Quand j'ai écrit les livres sur le Liban, tous les gens qui venaient me voir sur les massacres libanais, etc., m'ont tous dit c'est de moi dont vous parlez, c'est de mon père, c'est de ma mère, c'est de ma femme, c'est de ma vie, et pas de vous. Donc j'essaye, je déteste ces mots comme ça. J'essaye de faire des choses qui brusquement deviennent universelles, parce que le petit Sorge, il n'est pas là, il n'est jamais là. Il se cache derrière les mots bègue d'un enfant bègue, et il donne à entendre. Moi, j'aimerais être un griot africain sous un arbre, à l'ombre, et voilà, c'est ça. Et je ne guéris pas d'en avoir parlé, je ne vais pas mieux d'en avoir parlé, mais les gens repartent avec une histoire qui est la leur, en fait.
Vous consolez les autres.
Je console les autres comme je ne l'ai pas été.
Gilles. Vous avez parlé de vos personnages. Quand on regarde l'ensemble des personnages de vos livres, ce qui m'a frappé, c'est que vous vous placez toujours du côté des oubliés, du côté des relégués, du côté des dominés, du côté des pourchassés. Oui. Est-ce que c'est un choix d'engagement, presque un choix politique, ou est-ce que c'est un choix littéraire, un choix artistique, parce que ce sont des bons personnages?
Non, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que moi, il y avait une phrase que j'avais mise, je me souviens plus où, et que j'aime beaucoup, c'est j'aime les gens qui sont flous sur la photo parce qu'ils ont bougé. Et c'est eux que j'aime. J'aime pas les ministres qui sont devant nous. J'aime celui qui est à gauche et qui a bougé. Moi, j'étais un enfant battu, donc j'ai connu l'injustice, j'ai connu la rue pendant un an, j'ai connu l'injustice. C'est-à-dire que, en fait, je suis un chien des rues qui a survécu comme il a pu. Donc c'est pas une posture. Je viens de là. Et c'est un monde que je connais. De grands auteurs comme Georges Simenon peuvent écrire, lorsqu'on les lit, il est aussi à l'aise dans une chambre de bonne, dans un garni parisien, que dans un salon bourgeois. Moi, je ne peux écrire que sur ce que je connais, c'est-à-dire la fraternité, la solitude, l'exclusion. Je pourrais pas écrire un livre, encore une fois, je vais pas parler des Trois Mousquetaires, mais je ne pourrais pas écrire un livre qui se passe à la cour du roi, j'en suis incapable. Ou bien alors, je suis celui qui est couché par terre à qui on jette de la viande. Mais c'est tout ce qui m'est possible d'imaginer. Moi, j'aime ceux qui sont sans voix, mais les sans voix bègues, les sans voix malades, les sans voix opprimés, mais c'est parce que j'en viens, parce que j'en suis. C'est pas une posture. Heureusement, parce que c'est une posture que tu peux pas tenir tellement longtemps, en fait. Il y a toujours un moment où quelqu'un te rappelle que t'es professeur tu es fils d'un grand avocat et d'une réalisatrice de télévision. Ben non.
Sinon, ça devient vraiment une posture, pour le coup.
Oui, j'ai de quoi répondre.
Natacha.
Nous avons placé cette émission sous le signe de cette question, le pouvoir du livre. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir du livre? Et le plus beau livre écrit là-dessus, à mon avis, est Le nom de la rose d'Umberto Eco, oui. Qui est une réflexion sur le pouvoir subversif des livres, mais aussi sur ce que c'est que la disparition des livres à travers l'incendie d'une bibliothèque. Et je me posais la question, est-ce que c'est le genre... Enfin, est-ce que votre rapport au livre... C'est aussi celui d'un rapport à tous les livres qui ont préexisté. Est-ce qu'il y a dans ce pouvoir du livre quelque chose qui, selon vous, est lié au fait que, que c'est une accumulation d'une mémoire humaine ?
Sans Chalandon.
Oui, c'est-à-dire que le pouvoir des livres, moi, est d'autant plus fort que c'est un pouvoir qui m'était interdit. Puisque, c'est-à-dire que je viens d'un lieu où les bibliothèques brûlaient. Oui. Donc c'est extrêmement important. Et surtout, moi, j'avais une petite bibliothèque qui était à Lyon, à Saint-Jean. La bibliothèque Saint-Jean, c'est un lieu où une petite dame, une bibliothécaire, a compris un jour que le gamin qui errait dans les travées un jour d'école, non seulement avait fait l'école buissonnière, mais en été, elle avait remarqué que j'avais des bleus sur les genoux, sur les bras, et donc elle a compris très vite qui j'étais. Et c'est elle, c'est cette dame, et j'en parle, pas de cette dame, mais je parle de ce livre-là, dans mon dernier, c'est elle qui m'a donné L'Enfant de Jules Vallès, qui m'a donné à lire L'Enfant de Jules Vallès. Je sais pas ce que c'est qu'un livre, je ne connais que les livres de maths, je sais pas ce que c'est qu'un roman. Et brusquement, je lis L'Enfant de Jules Vallès, je lis ce livre qui est que Jules Vallès offre à ceux qui ont souffert, ceux qui ont été battus par leur père, corrigés par leur maître, etc. Et brusquement, grâce à ce livre-là, je sais que Sorge, il est plus seul. Je sais qu'il y a un petit Jules que je ne connais pas. Je ne connais pas ni la Commune de Paris, ni rien du tout. Je ne connais pas. Et puis, je découvre brusquement, grâce au livre, je découvre une fraternité de sans voix. Je découvre Poil de Carotte, je découvre tous ces gamins qui m'ont fait cortège ma vie durant en me disant non, tu n'es pas seul. Et c'est les livres qui m'ont appris ça. C'est-à-dire que les livres m'ont appris qu'avant moi, il y avait d'autres petits Sorges, d'autres Poils de Carotte, d'autres petits Jules, qu'après moi, il y en aura d'autres. Et je m'inscris à l'intérieur à un moment donné où j'ai besoin de remercier ces enfants martyrs-là qui sont des enfants de papier, mais qui sont en même temps des enfants de cœur, de sang et de larmes, et je les accompagne. Donc, pour moi, brûler un livre, enfin, ce qui se passe aux États-Unis, lorsque je vois qu'il y a des États où Anne Frank est mise à l'index, j'ai même pas envie de discuter. C'est-à-dire que, voilà, on est dans l'abomination de mon père.
Justement, j'allais y venir, vous avez dit, je viens d'un lieu où les bibliothèques brûlaient, et effectivement, et là j'en appelle presque au grand reporter, aujourd'hui, il y a un monde, les États-Unis, où les bibliothèques brûlent, au premier sens du terme, quasiment. Oui. Est-ce que vous avez envie parfois de prendre un avion et d'aller faire un reportage sur place, de raconter, de retrouver votre figure de reporter pour documenter ça qui vous est si cher?
Oui, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. C'est-à-dire que lorsque le Rassemblement National ou le Front National prend une ville, la première chose qu'ils visitent, c'est la bibliothèque et la médiathèque. Et ils arrêtent les abonnements de l'UMA, de l'IB, du Canard. Donc déjà, c'est pas grave. Ce ne sont pas des livres. Mais tout d'un coup, arrêter des abonnements et faire un tour de deux bibliothèques quand même pour voir ce qui va, ce qui convient, ce qui ne convient pas, on n'est pas aux États-Unis là. On est chez nous, en France. On est chez nous. Et moi, ce mot, j'ai envie de le reprendre à mon compte. On est chez nous, j'ai le drapeau bleu, blanc, rouge. Et si j'avais pu, ce livre-là, ce livre sur le prochain, sur l'engagement, surtout, je l'aurais appelé Une jeunesse française. Parce que moi, j'y tiens, j'ai pas envie de leur laisser un pouce de ma nation.
Gilles.
Oui, Natacha, vous interrogez sur le pouvoir des livres. Je voudrais vous interroger sur le pouvoir de vos livres. Vous faites des livres qui sont des livres engagés. Vous avez écrit un livre qui s'appelait « Le jour d'avant ». Oui. Je voudrais vous interroger sur « Le jour d'après ». Vous écrivez sur des lieux, Belle-Île, Liévin, l'Irlande. Qu'est-ce qui se passe après la publication de vos livres dans ces lieux-là?
Eh bien, c'est « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». C'est donc phrase d'Henri Calais, je le dis quand même, mais Liévin, quand mon livre est sorti, je me suis trouvé en face de gens. Donc la grande catastrophe, la dernière grande catastrophe minière de France, 1974, je me suis trouvé en face de gens qui me disaient « Enfin, on parle de nous. Enfin, on parle. » C'est un roman. J'invente l'un des morts qui n'a jamais été parmi la liste officielle des victimes. Mais « Enfin, on parle de nous. » Et j'ai été invité à Liévin l'année suivante à prendre la parole, à lire un extrait de mon livre devant les veuves, devant les familles de mineurs, devant les corps constitués, devant les gens en uniforme. À Liévin, je suis désolé, mais les gamins, ils s'habillent, je veux dire, les filles ne s'habillent pas en princesse, les garçons ne s'habillent pas en Zorro. Ils ont des petits costumes de mineurs, les enfants. Et ça, pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que je me retrouve en face de gens qui pensent qu'ils ont été oubliés, qu'ils ont été niés. C'est-à-dire que le mineur, c'était le héros après-guerre, c'est lui qui reconstruisait la France, etc. Et tout d'un coup, tout le monde découvre qu'il y a encore des mineurs à cause d'une catastrophe. Je suis là à ce moment-là, et c'est juste ma toute petite pierre. Le nombre de femmes qui ont eu un cancer, qui sont venues me voir en disant juste merci. Une qui a enlevé, qui était magnifique, une dame avec les cheveux roux, très grande, très belle, qui m'a remercié en disant j'ai ri dans ce livre-là. Et c'est formidable qu'elle rit sur ce livre-là. Et dans un geste absolument princier, elle enlève sa perruque blonde, sa perruque rousse, elle l'enlève, et elle est encore plus guerrière. Et elle traverse le salon du livre avec la perruque à la main. Si je me dis, mais pourquoi tu écris, bonhomme? Eh ben, c'est pour ça. C'est cette femme qui enlève sa perruque ou ses gamins après le prix Goncourt des lycéens, ces gamins à qui je dis que lorsque je suis entré dans les massacres de Sabra et Shatila, massacres de Palestiniens commis par les chrétiens cette fois-ci, jamais je m'étais senti aussi seul. Et que t'as un gamin qui est devant toi, qui est un collégien, et qui te dit « Je vous ai lu, monsieur, vous n'étiez pas seul, on était tous là. » À quoi ça sert d'écrire exactement à ça?
Merci, Sorge.
De rien.
Natacha.
Je vous entends parler de vous réapproprier ce que c'est que d'être français.
Oui.
Et
ça me touche beaucoup.
Bien sûr, et oui. Je pense, en vous écoutant, à ce poncif qui consiste à dire que la France est une nation littéraire. Oui. Et qu'en fait, je me suis toujours dit que ce que ça signifiait, c'est que, par exemple, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, nous ne la penserions pas de la même manière s'il n'y avait pas eu Voltaire, Victor Hugo, Zola.
Bien sûr.
Et que finalement, vous apportez votre pierre à cet édifice, c'est-à-dire que vous vous situez dans cette tradition qui permet de relire ce que c'est que l'égalité ou la liberté.
Je me situe comme l'un de leurs lecteurs qui a compris ce qu'ils voulaient me dire, sans plus.
Mais aussi dans une façon de concevoir la littérature comme une certaine vision.
Comme une arme.
De la fraternité.
Comme une arme. Je pense qu'un livre fera toujours moins mal qu'une balle de 9 mm, mais quand même, la première chose que l'on fait dans toutes les dictatures, on brûle les livres et on assassine les journalistes et les avocats. Il y a bien une raison, quand même.
J'ai une dernière question.
Oui, pardon.
On resterait très longtemps avec vous, mais malheureusement, le temps court. Bernard de Chartres disait « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». C'est qui vos géants à vous, en littérature?
En littérature?
Oui. Ou pas forcément en littérature, d'ailleurs.
En littérature, j'ai un poète. Alors, c'est étrange, parce que un poète qui s'appelle Bobby Sands, qui est un combattant irlandais, qui est mort en grève de la faim, et qui est un vrai poète irlandais, qui est mort en grève de la faim pour la reconnaissance des statuts de prisonniers politiques, et qui a écrit « Notre revanche sera le rire de nos enfants ». Je trouve que c'est l'une des plus belles phrases écrites par quelqu'un qui va mourir. « Notre revanche, c'est pas « on les tuera tous », ça va être le rire de nos enfants ». Après, j'ai toute la littérature irlandaise, mais j'ai une tendresse particulière pour Georges Simenon, qui, avec peu de mots, sans effet, des petites choses comme ça me racontent la vie comme peu de gens me l'ont raconté. Il me raconte ce qu'il est, il me raconte ce qu'il voit, il me raconte pas ce qu'il pense. Et j'adore ça. Je parle de la littérature dure, hein. Mais je pense qu'on devrait relire Simenon, même en oubliant peut-être un tout petit peu Maigret, même pas d'ailleurs. Donc j'ai... Mais je lis tout ce qui me tombe, non pas des mains, mais sous la main.
Et vous citez pas les grands romans naturalistes du 19e siècle ? Pourtant, il y a quelque chose de l'ordre d'une filiation, non, avec les Zola et les autres.
Oui, mais je n'ai pas le droit, enfin. On parlait de légitimité. Imaginez-vous. En fait, j'aime beaucoup Zola, même si je trouve que je suis pas encore prêt à arriver. Je peux pas faire ça. C'est absolument impossible. J'aime évidemment ces romanciers-là me galvanisent. Je veux dire, je n'ai pas cessé. J'ai cessé. Sans cesse, je pensais à Germinal en écrivant, évidemment, Les Mineurs, en me disant, mais de quel droit tu le fais ? Eh bien, je l'ai fait quand même, et désolé pour Germinal.
Vous avez le droit d'écrire. Merci et d'en parler avec autant de force et d'émotion. Merci beaucoup,
Serge Chalandon,
d'avoir été avec nous. Le Grand Face-à-Face est aujourd'hui XXL. Il est donc en direct jusqu'à 14h. Et on se retrouve après le journal.
Le Grand Face-à-Face XXL, en direct du Festival du Livre de Paris.
De retour en effet au Festival du Livre de Paris sous la nef du Grand Palais et toujours en public. Dans la première heure, nous avons avec l'écrivain Serge Chalandon raconté la force de l'écriture. Dans cette deuxième heure, on va s'intéresser à nous les lecteurs. Que lisons-nous ? Pourquoi lisons-nous ? Et pourquoi faut-il continuer à lire ? Autant de questions que nous allons poser avec Natacha et Gilles à quatre invités. Bonjour William Marx.
Bonjour Thomas Segarov.
Écrivain, critique littéraire, professeur au Collège de France. Pour vous, la lecture permet de passer de l'irréel au réel et inversement. Vous nous expliquerez cette magie de la lecture. Votre crainte à vous, Michel Desmurgés. Bonjour.
Bonjour.
Avec votre casquette de docteur en neurosciences, chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM, c'est que l'irréel des écrans ne tue la lecture et fasse de nous des crétins digitaux. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. C'est votre dernier livre aux éditions du Seuil en 2024. Voilà qui devrait susciter du débat avec vous. Marine Brugier-Dutournier, bonsoir. Bonjour.
Bonjour.
Parce que vous, c'est par le digital que vous tentez d'amener à la lecture les jeunes, les adolescents et les moins jeunes d'ailleurs. Votre compte Instagram Idylle Culturelle compte près de 40 000 suiveurs. J'ai décidé de parler français aujourd'hui. Et puis parce que c'est tout de même là que tout termine ou que tout commence, la librairie. On vous reçoit avec grand plaisir, Nathalie Iris. Bonjour.
Bonjour.
Libraire depuis 20 ans, directrice des librairies Mots en marge et... Ça, c'était à la Garenne-Colombes et Mots en ligne. À Courbevoie, vous présidez le prix des libraires depuis 2020. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Une première question en guise de tour de table, un peu rapide s'il vous plaît. Quel genre de lecteur êtes-vous, aussi bien en quantité qu'en qualité, William Marx ?
Je suis un lecteur professionnel puisque je suis professeur de littérature, donc je lis des livres tout le temps. Pour le travail, mais aussi pour le plaisir. On ne devient pas professeur de littérature par hasard. On devient professeur de littérature parce qu'on aime la littérature. Et donc, j'en lis dans la journée, j'en lis le soir avant de me coucher. Et puis, professeur de littérature comparée oblige. Je lis dans toutes les langues, enfin, toutes les langues que je connais. Donc, je lis en latin, en grec, en anglais, en allemand, en italien. Voilà. Et c'est une joie.
Et là, tous les autres se disent, oulala, ça va être dur de prendre la parole après lui. Nathalie Iris, c'est votre travail aussi de lire.
Alors, c'est mon travail.
En tant que libraire.
Oui, c'est mon travail, mais j'ai la chance que ce soit également ma passion.
Oui.
Donc je lis énormément. Et alors là, j'ai envie de dire, j'ouvre un grand éventail et je lis tout. C'est-à-dire, je lis du polar, alors essentiellement de la fiction, mais voilà. Ça peut être du polar, ça peut être des classiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est l'imagination, c'est l'évasion.
Est-ce que vous lisez jusqu'au bout tous les livres ?
Je lis jusqu'au bout tous les livres qui me passionnent, tous les livres avec lesquels j'accroche, mais je reconnais que ça n'est pas toujours le cas.
Michel Desmurgés, même question pour vous également.
Oh mon Dieu, je dirais que si je devais répondre que je suis un lecteur de besoin et d'habitude, mes parents, je déclare un conflit d'intérêts, mes parents tenaient une petite librairie à Lyon et voilà, et j'ai grandi dans les livres et j'ai besoin des livres. C'est un sas, je sais pas comment l'expliquer, mais si j'ai pas ma petite dose de lecture tous les jours, je suis pas bien. Donc je ne suis pas un professionnel du livre, mais je ne suis pas un érudit non plus, mais je suis un lecteur et je trouve que c'est un très chouette mot.
La petite dose, on parlera des 15 à 20 minutes quotidiennes qui est aujourd'hui mise en avant, notamment par des structures paragouvernementales. Marine Brugier-Dutournier, même question à vous. L'instagrammeuse, je pense que vous aimez pas qu'on vous présente comme ça, mais je le fais quand même, comme ça au moins on sait qui vous êtes. Mais après, vous pourrez aller bien au-delà de ça. Quelle lectrice vous êtes-vous ?
En fait, oui, je lis beaucoup de livres avec les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est surtout une histoire de passion. J'adorais les livres, et en fait, d'en parler sur les réseaux sociaux, ça m'a permis d'en parler, d'en lire encore plus, et de découvrir à la fois des auteurs vivants, mais surtout, j'adore les auteurs morts, puisque j'aime beaucoup les livres anciens, les livres rares, les bouquinistes, et je trouve que chez eux, on trouve des trésors d'histoire littéraire. Donc, je lis beaucoup de morts, beaucoup de vivants, et surtout, beaucoup de poésie, parce que c'est vraiment, je pense, la quintessence de la littérature, et c'est extrêmement dur de savoir en faire, et aujourd'hui, tout est poésie. Et en réalité, je pense pas que tout peut être catégorisé de poétique. Donc voilà, je pense que je suis ce genre de lectrice.
45% des Français déclarent lire quotidiennement. On l'a appris cette semaine, c'est pas mal, mais c'est 4 points de moins qu'il y a 4 ans. Nathalie Iris, quand on entre dans l'une de vos librairies, comment se comportent les clients? Que lisent-ils? Comment choisissent-ils les livres? Et est-ce que le libraire est encore le tiers de confiance absolument vital pour faire passer la lecture?
Alors, je vais commencer par la dernière question. Oui, je pense que le libraire est vraiment quelqu'un de prescripteur. Et c'est vrai que quand les gens rentrent dans ma librairie, en général, bon, ils commencent par faire un tour, mais très vite, ils vont vers les petites notules, les petits mots que je mets donc sur les livres. Et puis après, c'est un peu comme ça aussi que la discussion s'enclenche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventes conseils quand même. À cet égard, la librairie indépendante est vraiment un lieu particulier, un lieu à conserver, un lieu vraiment important, un lieu d'échange.
Oui, on va entrer dans le vif du sujet. William Marx, expliquez-moi. Moi, j'ai regardé l'une de vos conférences, je crois que c'est le cours inaugural au Collège de France. On peut les voir en ligne, c'est gratuit. Merci le service public.
Oui, c'est important de le rappeler. Oui.
Et tout c'est important de le rappeler.
Tout est accessible en France, à l'étranger, voilà. Tout est en ligne, en vidéo et en audio.
Et c'est toujours exceptionnel, souvent et toujours avec vous exceptionnel. Quand vous dites que l'irréel devient réel par la lecture, ça veut dire quoi? Expliquez-moi ce que ça veut dire, parce que ça nous permet de comprendre en quoi la lecture est un procédé presque magique.
C'est la question fondamentale de la littérature, c'est la question fondamentale de la fiction et du roman. Pourquoi lisons-nous du roman? La réponse, elle est assez simple. Elle a été donnée il y a 2500 ans par un grand philosophe grec, Aristote. Dans le premier grand livre sur la littérature et sur la poésie, la poétique, il dit ceci. La poésie est plus philosophique que l'histoire. Quand il dit poésie, ça veut dire la fiction, en vérité. La fiction est plus philosophique que l'histoire. Pourquoi elle est-elle plus philosophique? Parce que l'histoire ne fait que raconter des événements qui ont eu lieu à un moment donné de l'histoire et qui ne se répéteront jamais, par définition. Alors que la fiction, le roman, l'épopée, etc., racontent des événements vraisemblables qui pourraient arriver, qui ne sont pas arrivés, c'est vrai. Mais le lecteur est capable, et c'est là la magie de la fiction, la magie du roman, le lecteur est capable de les appliquer à quantité de circonstances possibles qui pourraient arriver dans sa propre existence ou dans la société ou dans la vie. Et c'est là l'une des particularités de la poésie, la fiction énonce une vérité plus générale que l'histoire. Et je crois que c'est l'un des messages de la littérature, de la fiction, de la poésie, c'est qu'en vérité, la fiction, la poésie nous permettent d'échapper à ce que le pape appelle la domination cognitive sur le monde. Nous croyons que nous savons tout sur le monde. Non, la littérature nous permet de penser au monde tel qu'il pourrait être et non pas au monde tel qu'il est. Parce que nous sommes toujours en train de participer en tant que lecteur au sens même du livre. La lecture est toujours fondamentalement active, à la différence des écrans où en général on est passif. Là, on construit le sens et c'est l'un des propres de la littérature et de la fiction, c'est que nous construisons le sens à partir de notre propre expérience et nous l'appliquons à tout ce qui se passe autour de nous.
C'est un échange entre le livre et le lecteur?
C'est un échange permanent, mais c'est aussi un enrichissement, c'est-à-dire que la lecture évidemment enrichit le lecteur, mais le livre, l'œuvre n'existerait pas si le lecteur ne le faisait pas vivre à l'intérieur de lui à partir de sa propre expérience. Et donc, tout lecteur lit un livre avec l'idée que, d'une certaine manière, il va trouver dans ce livre, quel qu'il soit, un sens à sa vie. Une sorte de salut, peut-être pas surnaturel bien sûr, mais quelque chose qui est là, présent, et qui va lui permettre de mieux comprendre l'existence.
Natacha Apolloni, grande lectrice également.
Et qui est frappée par justement le fait que ce que vous dites, William Marx, rejoint exactement le travail de Michel Desmurget, puisque dans votre livre Michel Desmurget, vous montrez à quel point la lecture est ce que vous appelez un simulateur social. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'écrit Aristote est désormais prouvé par les neurosciences, par le fait que, et je vais vous laisser la parole, Michel, oui, Desmurget, mais que en fait le lecteur active dans son cerveau les zones qui correspondent à la réalité de ce qu'il est en train de lire, et qu'en cela, la lecture est quelque chose, est une expérience qui nous permet de mieux comprendre le monde et surtout de nous mettre en empathie. Et que c'est en ça que la lecture est un élément essentiel. Michel Desburgès, je vous passe la parole. C'est bien tout cela qui est le fondement de ce que vous expliquez dans votre livre « Faites-les lire ».
Ouais, et oui. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on lit ?
Alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'effectivement, les lecteurs vous disent toujours, ça m'a fait ce que disait Chalandon tout à l'heure, les lecteurs parlent toujours de ses émotions, de ses ressentis, d'une vie plus grande, les livres m'ont sauvé. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. En fait, la littérature scientifique vient valider tous les ressentis des lecteurs, et notamment dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a eu énormément d'études pendant des décennies sur le rôle de la lecture, sur le développement du langage, de ce qu'on appelle l'intelligence verbale, de l'augmentation des connaissances, de tout ce qui est cognitif en quelque sorte. Et depuis 20-25 ans, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à ce qui est maintenant appelé l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, en tant que capacité à se comprendre soi-même, à comprendre les autres, à interagir avec les autres. Et on s'aperçoit que le livre, c'est le seul endroit, quasiment le seul endroit où on rentre dans la tête des personnages. C'est-à-dire que dans un film, on voit les personnages agir, on est obligé d'inférer et de comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Dans le livre, on rentre dans leur tête et on comprend. Et on comprend, par exemple, Emma Bovary, on comprend pourquoi elle agit comme elle agit, ses peurs, ses angoisses, ses espoirs, etc. Et on s'aperçoit que quand non seulement on comprend, et c'est ce que disait Proust, on peut vivre des dizaines d'expériences dans le livre qu'on ne vivrait pas dans la vraie vie, mais qui sont quand même des expériences qui enrichissent notre savoir social. Et ce livre-là, effectivement, non seulement on va mieux comprendre, il y a un impact sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à se comprendre, à comprendre les autres, mais en plus, les réseaux qui vont s'activer face à une émotion qui, si j'ose dire, est littérairement produite, c'est-à-dire quand Emma, elle a peur à la fin, ou quand c'est exactement les mêmes réseaux cérébraux qui vont s'activer dans mon cerveau. C'est-à-dire que je vais non seulement comprendre pourquoi il agit, mais je vais ressentir pourquoi il agit comme il agit, et c'est vraiment en ce sens que c'est un simulateur social et émotionnel, et les études montre effectivement que la lecture a un impact fort, donc sur la capacité à comprendre les autres, intelligences émotionnelles, sur l'empathie aussi, et globalement sur notre intelligence sociale. Donc vraiment la dimension émotionnelle et sociale du livre, c'est quelque chose qui est assez récent, ça fait 25 ans, mais c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable dans l'impact du livre, oui.
Mais pour nourrir ce moulin, sachez, et c'est d'ailleurs dans L'heure des prédateurs de Giuliano D'Empoli qui vient de sortir chez Gallimard, qu'on y apprend que Donald Trump ne lit rien et jamais.
J'ai envie de dire ça se voit, mais je n'irai pas jusque.
Non, mais si on fait le lien avec l'empathie, c'est intéressant.
Oui, tout à fait. Mais il y a des études de les grosses études de population qui montrent qu'il y a quand même une baisse des capacités d'empathie. Alors dans les populations de jeunes adultes et d'étudiants, alors c'est aux États-Unis, mais ils ont un peu le même cerveau que nous. Et donc il y a une baisse des capacités d'empathie. Attal disait, il faut leur donner, quand il était ministre, il faut leur donner des cours d'empathie. J'ai envie de leur dire, achetez-leur des livres, ça sera beaucoup plus efficace.
Nathalie Iris.
Oui, moi je voulais juste réagir pour dire que la lecture, ne l'oublions pas, est quand même un plaisir. C'est-à-dire que je pense que plus on lit, plus on a envie de lire. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait, notamment aux jeunes. C'est-à-dire qu'au début, les jeunes disent « Ouais, j'aime pas lire parce que c'est difficile. » En fait, non, c'est pas difficile, c'est comme le sport. Et après, ça devient de l'adrénaline, vraiment. Mais il y a ce passage-là où, oui, il faut faire un tout petit effort pour lire. Mais une fois qu'on a la clé, c'est formidable.
Mais l'effort, il est de plus en plus difficile, j'imagine. Et pour prendre mon cas personnel, l'écran, j'allais employer un anglicisme, disturbe, comment on dirait, William Marx ?
Oui, perturbe.
Perturbe, merci beaucoup. Perturbe. C'est toujours bien d'avoir un prof du Collège de France à côté de soi. Perturbe, surtout pour des mots aussi simples, perturbe l'attention de la lecture. C'est pas si évident que ça. Je vous donne la parole, Marine Brugier du Tournier, parce que vous avez choisi de promouvoir le livre en passant par, précisément, le numérique, avec votre compte Instagram Idylle Culturelle. Racontez-moi comment vous en êtes arrivé à construire ce raisonnement-là. Et comment est-ce que vous arrivez à amener ou à ramener à la lecture des gens qui s'en sont éloignés ?
Alors moi au départ j'avais pas du tout de réseaux sociaux, donc pour le coup je suis un peu de votre côté, c'était pas quelque chose dans lequel je croyais forcément, mais par contre pour parler de culture je trouvais ça très fort, et en fait c'était mon seul moyen de rencontrer des gens qui aimaient autant que moi les livres, et donc j'ai commencé à partager mes lectures, et puis ça a pris de l'ampleur, et aussi j'ai rencontré toute une galaxie de personnes, je pense surtout aux écrivains parce que maintenant je fais plein d'interviews d'écrivains, et il y avait aussi les livres anciens, donc en fait j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux et à me rendre compte qu'il y a une véritable, en tout cas il y a des chiffres chiffres, on a de la data en fait avec les réseaux sociaux, donc on voit l'impact de ce qu'on fait tout de suite, puisqu'on a les vues, on a les likes, on a des commentaires. Mais au-delà d'avoir ça qui a l'air un petit peu hermétique, un peu éloigné, en fait il y a vraiment des vrais lecteurs qui se baladent sur les réseaux sociaux, et par le biais aussi des musées, parce que je parle beaucoup d'expositions, de semaines culturelles, donc je parle pas seulement des livres, en fait ça ramène les gens aux livres, parce que finalement la culture c'est dans la gastronomie, c'est dans l'art, dans la littérature, et donc tout ça se croise, et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on éveille quelque chose chez, je pense, les gens qui les touchent dans leur vie quotidienne, et donc le livre est partout. D'ailleurs, on le voit quand il y a une exposition, bah, on a envie de garder un livre pour avoir une trace. En fait, le livre est une trace, et voilà. Et d'ailleurs, je travaille avec le Salon du Livre Rare là-dessus, parce que c'est un événement très important. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils sont sensibles à l'objet livre. Est-ce qu'ils lisent énormément de livres ? Peut-être moins, et de plus en plus on le voit, mais en même temps ils aiment aussi l'objet livre, la présence du livre et l'histoire littéraire qui se cache derrière. D'ailleurs j'en ai amené un aujourd'hui puisqu'il y a du public. C'est un livre qui date de 1936, qui est une anthologie de poésie préfacée par Paul Valéry. C'est un livre que j'ai payé 10 euros, qui est extrêmement beau chez les bouquinistes, et je pense que ça c'est très symbolique, très fort, et ça œuvre beaucoup le livre ancien aussi pour donner le goût du livre neuf, parce que c'est des objets d'histoire et les gens sont attachés à l'histoire et à ce qu'ils connaissent et reconnaissent. Donc je crois vraiment que les réseaux sociaux, ça a cette force.
Nathalie Iris.
Oui, et je voulais aussi rebondir là-dessus parce que c'est vrai que les comptes Instagram, ça permet aussi de montrer l'objet, et que le livre, c'est vraiment un objet, et de plus en plus, les éditeurs d'ailleurs font attention, ils font attention aux couvertures, ils font attention, etc. Et donc, pour nous, Instagram et les Instagrammeurs sont un relais. Hein.
Le livre est Instagrammable ?
Oui, oui, tout à fait. mais il faut l'ouvrir.
Le livre est sexy.
William Marx.
Je crois que c'est important d'insister sur l'objet livre, qui peut être effectivement très très beau et très agréable à voir et à toucher. Et surtout, moi-même, je lis beaucoup en électronique, je lis sur des liseuses. Je pense qu'il vaut mieux lire sur des liseuses que sur des tablettes, parce que les tablettes nous perturbent, elles nous amènent aussi plein de SMS, de messages, etc. Quand la liseuse ne fait que du livre, donc ça c'est déjà bien. Mais malgré tout, avec la liseuse, vous n'avez que le texte. Avec le livre, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le papier, vous savez exactement où vous en êtes dans la lecture. Et les études, Michel Desmurgés me contredira peut-être, mais les études montrent qu'en fait, on retient beaucoup mieux ce qu'on a lu lorsqu'on lit dans un livre que lorsqu'on lit de manière électronique, parce que vous avez quantité de sens qui interviennent. Dans sensations qui interviennent lorsque vous lisez. Et l'un des autres avantages de l'objet livre, c'est qu'il se conserve dans le temps. Le papier est en fait très résistant. Et lorsque vous êtes parent, vous constituez chez vous une bibliothèque, et bien cette bibliothèque, elle va servir à vos enfants plus tard. Ils verront la présence du livre, ce qu'ils ne verraient pas si vous lisiez de manière électronique. Et ces livres-là, qui seront accessibles, leur donneront peut-être leur premier plaisir de lecture. Et même, je vous conseille de mettre un second rayon de livres interdits et qu'ils iront fouiller adolescents. C'est merveilleux, ça.
Est-ce que vous écrivez dans vos livres, vous ?
Ah oui, beaucoup.
Un tabou pour certains. On n'écorne pas un livre, on le respecte.
Alors j'écris au crayon, j'ai du mal à écrire avec un stylo, mais parce que ce serait effaçable. Mais j'écris parce que ça me permet de me souvenir de ma lecture, et je prends des notes aussi pour mes cours à venir, mes livres.
Gilles Finkelstein.
Cette semaine, le Centre National du Livre a publié une grosse enquête sur le rapport des Français à la lecture. Thomas, on a évoqué un chiffre qui était la diminution globale de la lecture, notamment chez les grands lecteurs. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ensemble des mutations dans notre rapport à la lecture. C'est vrai sur le genre de livre, vous avez évoqué tout à l'heure la dark romance, c'est vrai des mangas, c'est vrai de la pratique, et notamment j'ai été très frappé, parce que Thomas parlait des tablettes et du rapport numérique, de voir à quel point pour beaucoup de lecteurs c'était une pratique discontinue, c'est-à-dire qu'on lisait mais qu'on faisait en même temps autre chose. Et puis la troisième mutation sur laquelle je voudrais vous interroger, précisément, c'est celle des supports, parce que vous parlez des objets. Or, on voit que se développe de plus en plus, non pas seulement le livre physique, mais le livre numérique, et aussi, et de plus en plus, le livre audio. Est-ce que le livre audio, c'est encore un livre ?
Oui.
Allez-y.
Moi je trouve que le livre audio c'est très fort, c'est comme les podcasts, parce qu'en fait quand vous faites autre chose vous pouvez l'écouter, donc évidemment c'est un nouveau support. Par contre, dans ce baromètre justement, le CNL soulève aussi que grâce aux réseaux sociaux il y a 47% de lecteurs, donc je pense quand même que tout cet écosystème numérique, à la fois l'audio, les réseaux sociaux, nourrissent la lecture. Donc je vous rejoins là-dessus.
Alors
Moi je pense que c'est un complément, mais en fait, il faut pas se focaliser sur le livre audio. C'est-à-dire que un livre audio de temps en temps, parce que on est en voiture, que on a un long trajet à faire, parce que etc. Voilà. Mais c'est pas le support principal de la lecture. Le support principal de la lecture, c'est le livre.
Alors, William Marx.
Oui, je vais dire un paradoxe. Le livre audio a toujours existé, en vérité. Ce n'est que le retour à une très ancienne pratique de lecture, qui est la lecture à haute voix. Dans l'Antiquité gréco-latine, on lisait rarement soi-même, mais on se faisait lire par un esclave. Eh bien, le livre audio, c'est un peu l'esclave du ouais. lecteur. Il a beaucoup existé, même au XVIIe siècle, des lectures populaires où quelqu'un devant, dans le cercle familial ou bien dans un cercle de travail, vient lire, parce que c'est la seule personne qui est capable de lire, vient lire des histoires à d'autres personnes, d'autres collègues. On voit ça dans Don Quichotte, par exemple.
Deux petites remarques, si je peux permettre.
Bien sûr.
La première, c'est sur l'importance des réseaux sociaux et de ça pour la lecture. Personne ne dit qu'il faut jeter tous les écrans et tous les réseaux sociaux qui peuvent être à bénéfice. Ce que montre aussi l'étude que vous citez, c'est que l'empêchement numéro un à la lecture, c'est quand même l'usage du numérique et des réseaux sociaux. Donc on parle ici quand même d'usage de niche qui ne sont pas du tout représentatifs de la façon dont les gamins utilisent leurs réseaux sociaux, même les adultes d'ailleurs. Donc c'est le premier point. L'un des empêchements centraux de la lecture, c'est l'orgie d'écran que nous connaissons actuellement, y compris dans les nouvelles générations. Et qu'il puisse y avoir certains éléments positifs là-dedans, dans l'usage. Personne n'est assez sot pour le nier, mais ce qui compte, c'est l'océan des usages négatifs dans lequel ces éléments positifs sont noyés. La deuxième chose, c'est que dans ce rapport et dans cette étude que vous citez, on nous parle de lecture de livres audio. Donc, on écoute des livres audio, on ne lit pas des livres audio. Un livre audio, ça peut être sympa, moi, pour aller au travail, j'écoute des livres audio. Cela étant dit, le cerveau ne traite pas l'information orale comme il traite l'information écrite. Si le contenu est extrêmement simple, il n'y a pas de différence. Plus le contenu va devenir complexe, et mieux on va comprendre à l'écrit par rapport à ce qu'on va entendre à l'oral. C'est-à-dire que vous allez naturellement, quand vous lisez, vos yeux reviennent en arrière sans que vous en rendiez compte. On va, quand ça devient compliqué, lire un peu plus lentement. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est des études assez récentes qui sont sorties. On ne traite pas l'information orale comme l'information écrite. Si je vous dis une chose comme... Il y a des dizaines d'exemples qui ont été pris dans cette étude qui est fascinante. Si je vous dis une chose comme, sur l'arche, combien Moïse a-t-il emmené de paires d'animaux ? À l'oral, il y a toutes les chances que ça passe. À l'écrit, ça ne passera pas parce que vous allez tout de suite noter que ce n'est pas Moïse, mais que c'est Noé. En fait, le traitement des informations, quand on les lit à l'écrit, au niveau des traitements cérébraux, est beaucoup plus important et beaucoup plus profond que le traitement des informations orales, qui est beaucoup plus superficiel, ce que montre cette étude. Donc, écoutez, regardez, même moi je fais le lapsus maintenant, écoutez des livres audio, il n'y a pas de problème, ça peut être sympa, il y aura quand même, l'attention va se relâcher plus facilement, ce qu'ils appellent le mind wandering, je ne sais pas comment le traduire en français, mais l'attention, la pensée qui va se mettre à divaguer, c'est beaucoup plus important dans les livres audio. C'est-à-dire que si vous écoutez un livre audio, par exemple, et que je vous dis qu'en tentant un bip, appuie sur un bouton, vous allez réagir beaucoup plus vite avec un livre audio que quand vous êtes en train de lire un texte écrit. Donc les livres audio, oui, mais ça ne remplace aucunement et nullement le papier, qui est un support d'apprentissage et de mémorisation infiniment plus efficace. Et pardon, et après je me tais, c'est exactement la même chose aussi sur le livre papier par rapport à la liseuse. Quand c'est simple, il n'y a pas de différence, mais il y a notamment un truc important, c'est qu'on se concentre mieux avec un livre papier, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que le livre papier, comme vous l'avez dit, mais il a une unité spatiale. Et en fait, le cerveau, il navigue beaucoup plus et beaucoup plus facilement dans cette unité spatiale. On repère que le gars il est mort, et vous vous rappelez que c'est cette page là un petit peu au début, un petit peu en bas,
droite ou à gauche.
Oui, et on se rappelle. On se rappelle souvent de l'endroit où se passent les choses dans le livre, et cette organisation, cette unité qu'on n'a pas ni dans la tablette ni dans la liseuse, on est perdu, et le cerveau se repère infiniment mieux dans un livre qu'il ne se repère sur une liseuse. Voilà.
Marine Brugé-Dutournier, vous voulez prendre la parole, et après on ira dans la librairie, parce que j'aimerais savoir comment, si vous avez vu vous une évolution sur 20 ans de carrière, je ne sais pas si on dit le mot carrière, 20 ans de vie professionnelle, dans la pratique des lecteurs que vous côtoyez tous les jours.
Non, mais moi je vous rejoins, parce que c'est sûr que l'écrit reste, et qu'en fait par rapport à l'oralité, ça aide énormément à la concentration et pour plein de choses. Après, je pense que si on veut que les gens lisent plus, il faut pas qu'il y ait un sentiment de culpabilisation qui se mette en place, parce qu'en fait c'est souvent ça, on essaye toujours de dire aux gens vous lisez pas assez, donc ça les pousse pas à lire. Et c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure avec le côté bibliothèque interdite, ça donne envie d'y aller. Et ben là c'est la même chose, on va éviter de les dissuader, et donc je pense qu'il faut pas culpabiliser les gens. Finalement, si les gens aiment bien les livres audio, s'ils lisent ce qu'ils ont envie de lire, du moment qu'ils lisent d'une manière ou d'une autre en écoutant ou en lisant, ça va peut-être les amener justement à lire des textes, parce qu'il y a certains textes qui se prêtent pas à à la lecture audio, et je vous rejoins, quand ils sont assez complexes, il faut pouvoir revenir en arrière et pour comprendre toute la trame. Donc peut-être des grands chefs-d'œuvre de la littérature ne se prêtent pas du tout à du livre audio, mais par contre d'autres choses plus courtes peuvent être vraiment très sympathiques, comme Un été avec un écrivain en audio, c'est fabuleux, parce que comme ça on peut être embarqué avec lui et on aura envie après d'aller lire son œuvre.
Oui, pardon, il ne s'agit pas d'opposer les deux, il s'agit de dire que ce n'est pas la même chose.
Oui, je vous rejoins, mais au cas où.
Peut-être qu'Un été avec, ça marche très bien parce que c'est d'abord de la radio.
Ah,
mais oui. Donc c'est un retour à l'oralité.
C'est ça.
Nathalie Iris, est-ce que vous, alors, je reviens sur l'enquête qu'évoquait Gilles à un instant du Centre National du Livre. Est-ce que vous avez vu, vous, évoluer les pratiques des lecteurs qui entrent dans vos librairies? Est-ce que des gens n'entrent plus? Est-ce que des gens entrent avec un sentiment de culpabilité, d'être submergé par la quantité de textes qui peut être très impressionnant dans une librairie ou dans une bibliothèque? Racontez-nous un peu comment ça se passe chez vous.
Alors moi, je pense que déjà depuis 20 ans, les lecteurs, les bons lecteurs sont toujours rentrés dans les librairies. Alors il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que les jeunes, depuis le pass culture quand même, rentrent bien davantage en librairie. Donc il faudrait garder quand même ce pass culture et ne plus en faire une peau de chagrin. Ce que j'ai vu aussi qui avait évolué, donc toujours dans les pratiques de lecture, j'ai l'impression que le polar prend de plus en plus de place et nous, les librairies, sont de plus en plus envahis par la romantaisie, la romance, les choses faciles, les, entre guillemets, feel-good books. Et ça, c'est difficile de résister.
Ça veut dire quoi, c'est difficile de résister?
Bah, c'est-à-dire que...
Pour vous ou pour les
non,
lecteurs?
Non, alors, c'est, en fait, paradoxalement, c'est un peu les deux.
Oui.
C'est un peu les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une librairie, c'est aussi un commerce quand même.
Oui.
Donc, on est un peu pris entre... il faut vendre des livres, on est là pour vendre les bons livres, en tout cas les livres qui ont vraiment un contenu, dont on sait qu'ils vont apporter des choses. Et puis, y a cette déferlante, effectivement, de romantaisie. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en a dans notre librairie? Est-ce qu'on n'en a pas? Voilà. Donc, cette évolution-là est nette.
Mais cette querelle des anciens et des modernes, elle est aussi vieille que la lecture elle-même, non, William Marx? Il y a toujours eu des grands romans populaires. On se bouchait un peu le nez quand on voyait des gens qui les lisaient, mais ça a toujours existé, non?
C'est pas des romans populaires, excusez-moi, Justin. Vraiment, la romantaisie, pour moi, c'est pas du roman populaire. Il y a de très bons romans
populaires. Populaire parce que beaucoup vendu dans ce sens-là.
Qui se souvient d'Ernest Feydeau? Eh bien, il était l'auteur du plus grand best-seller de 1857. 1857, c'est l'année où paraît Madame Bovary. Et donc, Madame Bovary n'était pas un best-seller à l'époque où c'est sorti. C'était vraiment une œuvre d'avant-garde. Mais on a oublié Ernest Feydeau et finalement, il reste Flaubert et Madame Bovary. Moi, c'est vrai qu'il y a toujours une évolution des gens. Et on peut espérer simplement, en entendant ce que disait ma voisine libraire, c'est que le fait d'entrer dans une librairie, c'est l'accès aussi à beaucoup d'autres livres que ceux qu'on cherche. Donc on cherche un livre, et donc il me semble que le livre de romance, le polar, qui a aussi du reste ses lettres de noblesse, il y a quand même de grands polars vraiment, vraiment littéraires, peut être aussi un produit d'appel, comme on dit, pour permettre aussi de découvrir d'autres livres. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus effrayer les lecteurs, et que de toute façon, l'évolution de la littérature, c'est toujours faite par les marges. Il y a toujours eu, effectivement, ce que après l'université, les académies, et puis l'école sanctifie et canonise comme étant le grand canon central, Flaubert, Baudelaire, Corneille, Molière, etc. Et puis il y a des auteurs qui sont populaires, qui sont oubliés, et d'autres qui sont populaires et qui rentrent dans le canon. Un cas par exemple, Marguerite Duras. Marguerite Duras a été extrêmement populaire.
François Sagan.
Et ce sont des autrices qui sont absolument rentrées dans le canon. Et Colette a été extrêmement populaire de son temps. Elle a eu un succès, une célébrité comme personne ne l'a eu. Et elle est aussi au premier plan du canon littéraire français. Donc, il y a de la littérature populaire qui disparaît dans la mémoire et d'autres qui restent dans le grand canon. Donc, le tri se fera avec le temps.
Natacha
Polony. Sans doute que la question n'est pas tant de savoir si on classe en genre, c'est-à-dire en effet roman policier, etc., mais de savoir ce que c'est que la littérature. Et il me semble que ça a quelque chose à voir avec le choix que fait l'auteur de chaque mot et le fait que chaque mot est essentiel et a sa place. Et donc, ça ne peut pas être une production semi-industrielle comme le sont certains romans à la mode, ou en tout cas ceux dont vous parliez sur les feel-good books et ce genre de choses. Et que l'obsession que nous avons aujourd'hui de dire il ne faut pas culpabiliser les lecteurs vient du fait que nous avons tous conscience, sans oser le formuler, que la littérature, que la lecture en général est en recul, malgré tout en recul tragique, et que la littérature au sein de la lecture est en recul également. Or, il me semble, et vous disiez tout à l'heure, William Marx, qu'il y a eu en effet différentes manières de lire au cours de l'histoire, mais il me semble que la généralisation de la lecture a quelque chose à voir avec la démocratisation et avec l'idéal de société que nous avons mis en place en Europe notamment, et qui est l'héritière de l'humanisme et des Lumières. Et que donc le recul de la lecture a aussi quelque chose à voir avec ce qu'évoquait Michel Desmurget tout à l'heure, et le recul de l'empathie et le recul de la démocratie.
William Marx et puis ensuite Michel Desmurget.
Beaucoup de gens savent lire maintenant beaucoup plus qu'il y a des siècles. Donc forcément, il y a beaucoup plus de lecteurs potentiels, mais tout le monde ne peut pas lire du Mallarmé et tout le monde ne peut pas lire...
Non mais là, Mallarmé, vous choisissez l'exemple extrême.
Non, mais simplement, je pense qu'effectivement, il faut donner à chacun ce qu'il peut lire, en espérant, mais ça c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de l'enseignement, c'est le rôle des médias comme France Inter, de la radio, d'Un été avec, etc., de donner envie de grandes œuvres. Parce que le fait est que nous, ici, autour de cette table, nous sommes tous des lecteurs d'œuvres classiques, canoniques, qui sont des œuvres profondes, où effectivement il y a une recherche formelle qui fait penser le cerveau, qui fait travailler comme aucun autre type d'œuvre. Et donc nous sommes un peu malheureux de voir ces lecteurs qui sont dans ce que Sainte-Beuve, déjà au 19e siècle, appelait la littérature industrielle. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ni même de la veille. Mais le fait est qu'il y a un rôle de formation à faire. Et je crois que la formation, elle est indispensable. Elle est indispensable à donner par les médias et par l'école.
Michel Desmurget.
Alors, je suis désolé, un petit point de désaccord, léger, hein. Je crois que il faudra pas croire que la lecture, c'est juste une question d'envie et de décision, que quand vous avez 18 ans, vous décidez que vous allez devenir lecteur. La lecture, c'est vraiment une construction et c'est un leg. Et les études montrent de façon assez claire, il me semble, que l'école, évidemment, est utile, mais la transmission de la lecture, le vecteur principal, c'est la famille. Parce que il y a une chose qu'on néglige, qui est essentielle, c'est que j'avais une amie orthophoniste qui avait tout résumé, qui disait, ma fille, elle est bilingue, oral, écrit. Et c'est pas parce qu'on parle l'oral qu'on parle l'écrit, si j'ose dire. Le langage, la syntaxe, le lexique, la grammaire, les temps, vous avez plein de temps, le passé simple, le passé antérieur, le futur, qui sont des temps de l'écrit, la voix passive, la richesse des phrases. Essayez Proust à l'oral et ça va pas passer. Et donc, il y a une richesse de langue.
Ah, je suis pas d'accord. Hein.
Que pour Proust à l'oral, essayer une phrase à tiroir avec 25
relatifs,
ça va être compliqué.
Pendant le Covid, la Comédie française a lu Proust et ça marchait bien.
En tout cas, ce que montrent clairement les études, c'est qu'il faut transmettre cette seconde langue à l'enfant. Et cette seconde langue, cette transmission, pardon, je vais très vite, mais j'ai fini, elle se fait notamment via la famille et via la lecture partagée. Il faut lire à l'enfant parce que si on ne lui enseigne pas cette seconde langue, c'est comme si on le prend, qu'on le met aux États-Unis et qu'on lui dit parle anglais. On ne mesure pas à quel point vous avez des mots qui... Il suffit qu'un gamin ignore 2% des mots d'un livre pour ne rien comprendre à ce qui se passe dans le livre, et il y a peu de mots qui donnent le sens. Et ce sens, il est transmis par la famille, et j'en ai fini, mais là où l'école a des difficultés, c'est que pour transmettre ce langage, l'étude montre qu'il ne suffit pas, c'est pas un bain ambiance, c'est-à-dire que si un enseignant parle à 15 gamins, ou même en demi-classe, à 8 ou 10 ou 20 gamins, l'impact sera infiniment moindre que si on est dans une interaction de face à face ou de face à deux. Et c'est dans ces opérations là. Et un parent, par exemple, qui a un gamin de 4 ans et qui lui lit tous les soirs ou presque une petite histoire, c'est un an de développement supplémentaire pour le gamin.
J'entends ce que vous dites, mais il faut que les parents soient disponibles
pour
le faire.
On peut regretter que la biologie soit pas sympa, mais en tout cas, toutes les études montrent que l'école ne peut pas se substituer à ce niveau-là à l'investissement massif. On pourrait faire un investissement politique massif sur ces enfants dont les parents peuvent pas lire ou sont défavorisés ou autres. C'est pas fait actuellement, mais dans le cadre actuel, l'école ne peut pas se substituer à la famille.
Mais est-ce que le numérique le permet, Marine Brugier du Tournier? L'idée quand même que cette arme de destruction massive de la culture qu'on a dans notre poche peut être une arme de construction massive aussi pour des populations éloignées de la lecture, où les parents n'ont pas le temps parce qu'ils sont au travail ou parce qu'eux-mêmes n'ont tellement pas de lien avec le texte ou l'écrit qu'ils ne puissent pas le transmettre à leurs enfants.
Oui, alors je le pense. En fait, j'aime pas cette idée de dire qu'on peut donner au lecteur ce qu'il peut lire. En fait, c'est quelque chose que j'aime pas parce qu'en fait, je crois vraiment que il faut présupposer que les gens peuvent être touchés par un texte et qu'en fait, ils l'ont juste pas encore rencontré. Dans mon cas, mes parents, désolé, ils sont peut-être en train d'écouter, ils aiment les livres, mais pas autant que moi. Et d'ailleurs, ils comprennent pas forcément mon appétence pour les livres. Et en fait, c'est juste que j'ai rencontré le bon livre un jour et que en fait, ça a changé ma vie. Et j'ai eu des professeurs, j'ai rencontré des libraires, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont conseillé des livres. Et en fait, tout ça, c'est plein de rencontres qui font que bah, je suis nourrie de littérature, mais comme plein de gens. Et donc, j'ai pas, heureusement qu'on m'a pas donné le livre que je pouvais lire, entre guillemets, parce que finalement, très jeune, j'ai lu un livre, L'arrache-cœur de Vian, qui a changé ma vie et qui a fait que j'aime autant les livres. Et pourtant, c'est un livre qu'aujourd'hui, peut-être plein de gens liraient pas à l'âge où je l'ai lu. Donc, en fait, c'est je pense qu'il faut présupposer déjà que les gens peuvent très bien le comprendre et qu'en fait, c'est juste que la manière dont c'est transmis aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de difficultés à le faire. Les réseaux sociaux permettent justement qu'on touche d'autres publics. Moi, je vois quand même que il y a des milliers de vues et des centaines de milliers de likes. Récemment, j'ai fait une publication, une vidéo sur le métier de vivre de Pavès. C'est quand même un gros pavé. Alors peut-être que plein de lecteurs vont l'acheter et le lire et liront, picoreront Pavès. Et ben tant mieux, au moins ils picorent Pavès et c'est tellement extraordinaire. Je l'ai dévoré et j'ai vu que cette vidéo, elle a fait plus de 60 000 vues, qu'elle a fait au moins 3 000 likes et que j'ai eu des quantités de retours. Et pareil pour Kundera. Enfin, je veux dire, il y a des grands auteurs avec qui on fait quand même des chefs-d'œuvre très longs. Et moi, je vois qu'il y a des gens qui les ont lus, qui les connaissent, qui connaissent au moins leurs grandes idées et que ça les a touchés dans leur vie. Donc, en fait, en parlant aussi de ces livres-là et aussi de contemporains, on arrive à les amener à plein de choses. Donc, oui, les réseaux sociaux démocratisent les choses. Mais moi, je pars toujours du principe, quand je parle d'un livre, que déjà, j'ai pas à dire qui peut le lire ou quoi. En fait, je transmets et tant mieux. Et puis, les professeurs, j'ai rencontré professeurs qui pensaient la même chose dans ma scolarité et ça m'a donné envie de lire tellement de choses. Pareil pour les écrivains. Daniel Pénac racontait dans une interview qu'on a faite ses livres préférés. Il y a eu des quantités de retours. C'est une vidéo qui a fait 120 000 vues. Pareil aussi, des milliers de likes. Et en fait, il a recommandé 5 livres. Peut-être que plein de gens liront les 5 livres qu'a recommandé Daniel Pénac cette année. C'est génial parce qu'il a recommandé des choses très éclectiques, du Simenon, en même temps un livre récent. Enfin, plein de choses différentes. Il a recommandé surtout Pessoa. Est-ce que le livre de l'intranquillité, quelqu'un va le lire en entier ? Plusieurs personnes à Odéon, oui, moi-même peut-être, ok, mais nous, ok, autour de cette table, peut-être, mais plein d'autres gens aussi, finalement, le liront, le picoreront. Donc je crois à la force des réseaux sociaux et qu'on doit donner aux gens surtout ce qu'ils ont envie. Et ils auront l'envie, elle vient toute seule, l'envie.
Envie et pas forcément besoin.
Non.
Non.
Alors moi, je crois vraiment, moi, le nombre de gens qui rentrent dans ma librairie en disant « mon enfant ne lit pas », j'ai envie de leur dire « mais est-ce que vous, vous lisez ?» Donc vraiment, il faut, je pense qu'il y a une question d'exemplarité aussi. Prenez le temps. Le temps, on l'a toujours pour regarder, défiler son fil Instagram, mais on ne le prend pas forcément. Prenez 10 minutes par jour, juste pour montrer à votre enfant que vous lisez. Et je pense que là, peut-être qu'on pourra remonter le taux de grands lecteurs.
William Marx. Et puis oui. Ensuite.
Une chose que dit l'enquête du CNL qui vient de paraître, c'est qu'en fait le fait de lire aux enfants, oui, c'est utile, mais ce qu'on voit, c'est que les grands lecteurs, c'est pas nécessairement des grands lecteurs à qui enfants on lisait, mais c'est des grands lecteurs qui ont vu leurs parents lire, effectivement. C'est l'exemple parental, c'est-à-dire voir le parent qui dit, quand il est embêté par son enfant, dit, mais écoute, arrête de m'embêter, moi je suis en train de lire. Et donc ça, c'est ça, ça rend l'effet de lecture précieux, et à ce moment-là, l'enfant voudra imiter le parent. Donc voir les parents lire plutôt que d'être sur les écrans. Je suis quand même terrifié de voir parfois des mères ou des pères promener une poussette avec leur écran en même temps et ne pas parler à leur enfant. Mais donc avoir un livre, ce serait déjà beaucoup mieux. Et deuxième chose par rapport à ce qui a été dit, je crois que ce que nous apprend la littérature, c'est que nous devons accepter de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre. Ce n'est pas parce qu'il nous manque des mots dans un livre que nous ne comprenons pas le livre. Je me souviens, quand j'étais enfant, et j'ai vu ça aussi dans ma famille, nous écoutions des fables de La Fontaine qui étaient dites, et nous ne comprenions pas tous les mots. Hein. Foi d'animal, intérêt est principal, ça, on n'en comprenait pas très bien ce que ça se dit. Mais pourtant, ces mots s'inscrivaient en nous, et la manière dont ils étaient dits sur un disque de fables, par exemple, faisait que nous le récitions de mémoire, et donc il y avait un goût de la littérature et du verbal qui s'imprimait en nous. Et je crois que la littérature, c'est ça aussi. Nous devons accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les grands livres sont des livres qu'on ne comprend pas personnellement. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire Houri de Kamel Daoud, qui a eu le prix Goncourt. Bah, c'est un livre qui n'est pas facile à lire. Il est plein de complexité et pourtant, il a un énorme succès, parce que, pas seulement parce qu'il a le Goncourt, mais aussi parce qu'on est emporté par un lyrisme et on accepte de ne pas comprendre pendant un certain nombre de pages pour après faire soi-même le sens et avoir quelque chose qui se révèle à nous. Donc, on sacrifie un petit peu de la compréhension immédiate pour après construire quelque chose qui sera beaucoup plus puissant.
Gilles.
Oui, je voudrais prolonger sur cette histoire de démocratisation. Parce que William Marx, vous écrivez quelque chose qui n'est pas intuitif, qui est très juste, mais qui n'est pas intuitif, que la lecture est l'art le plus démocratiquement accessible. Et de fait, le livre est un des seuls biens culturels dont le prix a beaucoup baissé en 30 ans, que l'on peut trouver à moins 50% un an après en livre de poche, voire plus rapidement d'occasion, que l'on peut prêter. Mais malgré tout, il y a un obstacle, presque un obstacle culturel ou psychologique. On utilise souvent, et vous l'avez évoqué, l'argument du temps. Je n'ai pas le temps. Et on voit bien que c'est un prétexte, puisqu'on trouve le temps de faire autre chose. Donc c'est beaucoup une question de désir. Et c'est la question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres. Michel Desmurger, vous citez un philosophe italien, Nuccio Ordine, qui parle de l'utile inutilité de la littérature. Alors, ça serait quoi ? C'est quoi l'utile inutilité de la littérature pour faire naître ce désir ?
Michel Desmurger, et après, la discussion pourra s'ouvrir pour la fin de l'émission avec nos invités.
On oppose souvent le plaisir et l'utilité. Et en fait, s'il y a une chose que nous montre la biologie, c'est que le plaisir, c'est un moyen qu'a trouvé l'évolution pour stabiliser un certain nombre de comportements qu'elle a jugé utiles. Les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que le plaisir, c'est un moyen d'ancrer l'utilité. Et on a dit tout à l'heure, il y a une chose qui me paraît fondamentale, il n'y a pas de lecteur sans plaisir. Et vraiment, l'utilité découle de ça. Donc, faudrait pas. Si tu dis à l'enfant, effectivement, si tu dis au gamin, tu vas lire, ça sera bon pour l'école, il ira pas. Mmh. Si on arrive à lui inculquer le plaisir, il ira. Mais il n'y a pas de plaisir, si j'ose dire. Enfin, rarement dans la souffrance. Et un gamin qui ne comprend pas ce qu'il lit, il y prendra peu ou pas de plaisir. On aura du mal à l'amener à la lecture. Et je pense, et j'en aurais fini, on sous-estime, nous montrent les études internationales, que les difficultés d'une énorme partie de nos enfants et de nos adolescents à lire, à comprendre la lecture. Plus de 50% des gamins français et de l'OCDE sont incapables de comprendre, ont les plus grandes difficultés à comprendre les textes simples. 75% ne sont capables que de comprendre un message explicite dans un texte concret. Et quand on est confronté à ça, mettre, je sais pas comment on l'a fait à l'école, ma fille, mettre Les Fleurs du Mal ou Bellamy dans les mains d'un gamin qui arrive en première et qui a jamais lu, il peut pas s'en sortir, il a pas les codes, il a pas la langue, il a pas le langage. Et donc ce plaisir-là passe justement par cette inculcation progressive. Et le plaisir, c'est la clé, et c'est la clé de la stabilisation de nos comportements.
Et ça peut même être une forme de violence que de mettre entre les mains d'un gamin qui n'est pas capable de le lire un texte dont on dit qu'il est un grand livre. Ça crée une forme de frustration et de violence, j'imagine, intime, Nathalie Iris.
Oui, je pensais en vous écoutant, il y a quand même. Je pensais au Comte de Monte Cristo. Voilà, je me dis c'est.
Ah oui, alors là, ça cartonne en librairie.
Incroyable, ça cartonne en librairie. Pourtant, alors le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment effectivement populaire, c'est facile à lire, et pourtant ça a été écrit au 19e. Voilà, donc il y a de l'espoir, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il faut accrocher, et quelle que soit la manière d'accrocher, effectivement, Instagram est un.
Est-ce que ça accroche ? À savoir des gamins qui sortent du cinéma, qui ont vu Pierre Niney dans le rôle de Dantès, qui arrivent pour acheter le volume 1, puis peut-être le volume 2. Est-ce que vous les revoyez ensuite dans la librairie parce qu'ils disent « Tiens, ça me plaît bien cet auteur ».
Alors, pas nécessairement, mais ce que je voulais rajouter aussi sur le Comte de Monte Cristo, c'est qu'en plus, les éditeurs sont derrière, évidemment. Donc, les éditeurs ont fait des belles couvertures. Donc, le Comte de Monte Cristo est devenu un bel objet. Je pense que si on donne aux gamins un bel objet, ça peut marcher aussi. Il faut... Tout ça contribue à ça.
Ils peuvent aussi se rendre compte qu'il y a une distance importante entre le livre et le film.
Oui, en effet. C'est énorme.
Énorme. Marine Brugier du Tournier, on va conclure ensemble tous les quatre. Quel est l'argument premier que vous donneriez à quelqu'un, un jeune, à ma fille par exemple, tiens, pour lui demander de lire, pour lui proposer, pour lui donner envie de lire? Elle a 16 ans.
Ok. Je voulais juste dire un mot sur la démocratisation et le fait que le livre, ce soit quelque chose qui est quand même un objet qui est dans notre quotidien. Déjà, je pense que c'est un objet fort parce qu'il est présent partout et accessible partout où vous soyez, à l'étranger, en France, n'importe où. Donc même si vous pouvez pas aller voir des expos, au moins vous pouvez lire des livres. Et ça, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était un point 1. Après, pour donner envie, je trouve que l'objet livre déjà est beau. Même quand il a une couverture blanche, que c'est une édition de minuit, je pense à vous, William Marx. Voilà, c'est un livre qui fait rêver parce qu'il y a une histoire littéraire derrière. J'adore l'objet livre, donc déjà je lui parlerai de l'objet en soi qui a une présence très forte. Et après il y a le fait que dans les livres on a une quête de beauté et on a vraiment besoin de beauté puisque notre réalité l'est pas tout le temps. Et le livre, je trouve que c'est la clé vers la beauté. On peut lire vraiment des choses qui nous élèvent, qui nous amènent une vision du monde très forte, très belle, qui aussi nous apprennent mille vies parce qu'on peut pas vivre toutes les vies. Donc grâce au livre, en fait, on vit mille vies par procuration et forcément on s'élève. Donc quand j'avais 16 ans, j'aurais aimé l'entendre et j'ai trouvé dans des textes, je pense à Duras, Lamant, je pense oui à Boris Vian, à Françoise Sagan surtout, que j'aime plus que tout. Voilà, elle m'a donné mille vies et l'envie de vivre mille vies et je pense que c'est la beauté.
Bah merci. Et vous savez, on va s'arrêter là parce que je pense que ça va lui suffire. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup, beaucoup plus que vous venez de dire. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie du grand face-à-face. Je remercie encore Sorcha Landon qui était là pour la première partie. Merci Gilles, merci Natacha. Merci à l'équipe du grand face-à-face. Mathilde Clatt à la préparation de l'émission. Mathias Volant à la réalisation. Pascal Bresse qui a organisé cette délocalisation magnifique au Grand Palais aujourd'hui. Johanna Gabric et Charles Bouticourt étaient à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. Et vive le livre!